Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, 22h à Paris, 23h59, minuit même désormais à Doha. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast, bienvenue dans l'After Intégrale Coupe du Monde sur RMC, en direct du studio ici au Qatar, autour de moi à Paris, Daniel Riolo. Bonsoir Daniel.
Salut tout le monde, salut les amis.
Kevin Diaz est là également, salut Kevin.
Hola vive.
Salut à tous.
La qualification du Portugal pour les quarts de finale, comme en 2006, qualifié pour les quarts de ce mondial, ce sera face au Maroc. Qualification historique pour les Marocains. On va en parler, débriefer les réactions à venir également. Votre avis sur ce duel samedi à 16h. Et la prestation étincelante des Portugais il y a quelques minutes sur RMC. L'équipe de France au programme aussi. L'avis de Daniel, restons calmes et raisonnables, doucement sur l'enflammade autour des Bleus. On en parlera à partir de 22h40. Kevin, toi tu estimes que Didier Deschamps aura réussi son mondial, même s'il sort en demi-finale. Et puis, une affaire qui agite l'anderno médiatique ici, et pas seulement ici, en Algérie, au Cameroun également. L'affaire Samuel Eto'o a-t-il dépassé les limites en assénant un coup de pied à un blogueur algérien qui le provoquait sur le thème du barrage Cameroun-Algérie de mars dernier? On va en parler à partir de 23h20. Vous pouvez nous appeler, un supporter camerounais, algérien, au 32-16. Et puis Lyon également au programme, toujours pas vendu. Flou artistique total, ultimatum demain. Edouard G sera aussi avec nous pour évoquer l'actu lyonnaise avant une éventuelle vente de l'OL à John Textor. C'est parti pour l'After Intégrale Coupe du Monde en direct de Doha. Vous pouvez nous appeler au 32-16, bien sûr, le hashtag RMC Live et l'application RMC Sport pour Direct Studio, vos messages. Je rappelle qu'on est aussi en direct sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Messieurs, commençons donc par la qualification du Portugal. C'est tout chaud, Nico Villas est avec nous. Salut Nico.
Hola viva.
Ça va Nico?
Bah écoute...
Je suis bien entouré Nico.
T'as passé une soirée sereine? Ouais, t'es entouré.
Ouais, il y a que de la joie autour de moi.
Ah ouais, là c'est difficile d'être plus serein là quand même.
Mais cachez votre joie les gars, hein. Ça s'entend pas.
Hein. C'est un huitième de finale, hein. T'es pas non plus.
Oui, mais c'est pas que ça. Il y a le fond, la forme, il y a tout, Nico, ce soir.
Nico, tu sais que je disais à Kevin avant le match. Enfin non, le match avait déjà commencé depuis quelques minutes. Je lui disais honnêtement, je pense que dans le monde du foot, c'est chaque pays a un peu des particularités. Les Portugais, ils chouinent beaucoup au foot. Et Kevin m'a avoué que c'était vrai. Ils ont un petit côté à
chouiner. Non, c'est pas du chouinage, c'est le fado dont on parlait hier.
Toi, dis rien, c'est du fatalisme. Toi, c'est pareil.
Non, c'est du fatalisme.
C'est pas du chouinage. Non, mais moi, j'adore les particularismes culturels.
C'est plus de la souffrance que du chouinage.
C'est pour ça que j'aime en parler.
C'est pas du caprice, tu vois.
Et vous voir ce soir, parce que quand je suis arrivé, je vous ai vu heureux et avec le sourire. Moi, ça me fait plaisir. J'aime quand les jeux sont heureux. J'ai reçu des messages d'amis marocains qui étaient très heureux aussi. C'est bien, j'aime le football. Procure ces joies-là, c'est chouette.
Ce qui est complètement dingue.
J'ai eu aussi un message d'un ami espagnol qui n'était pas content.
On t'embrasse, Fredo.
Ce qui est complètement dingue, Nico, c'est
Fred
que.
Fred qui sera avec nous, évidemment, tout à l'heure, messieurs. Vas-y, Kevin.
Ah non, c'est pas Fred.
Nico, pour te dire la vérité, le football, c'est quand même incroyable parce que avant le match, Daniel me dit ouais, j'espère qu'avec cette compo, ça va jouer et tout ça. Je lui dis ouais, mais quand même, dans la compo, il ne met pas Cristiano, après, il met Otavio, Gonzalo Ramos, il est tout jeune.
T'as pas vu Cancelo, t'as pas aimé?
Il ne met pas Cancelo.
Moi, j'étais enthousiaste. C'est Kevin, il m'a douché direct.
Ouais, je dis, franchement, c'est quand même une compo
Kevin,
très osée.
J'ai gardé un texto que Kevin
m'a envoyé pendant le match. Ouais. J'espère le sortir à la fin.
Écoute,
je dis rien, c'est du teasing.
Ce match est un camouflé pour Kevin Diaz, hein, qui avant la rencontre, au moment du mais qu'est-ce qu'il fait Fernando Santos? On gagnera jamais la Coupe du Monde avec un tel effectif. Tu l'as dit? Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? On va le ressortir, ça. On va
le ressortir.
Non, le seul truc que j'ai accordé à Kevin, et là-dessus c'est vrai, c'est Cancelo. Parce que tu te dis, arrière gauche, arrière droit, même s'il joue souvent à gauche avec City.
Enfin, tout ça, un bloc bas.
Le côté que tu veux, Cancelo, tu trouves ça étonnant qu'il soit pas dans la compo. Bon, ça, c'est le seul truc, ça, oui, ça, je te l'ai accordé et tout. Le reste, que tu veuilles Vitinha titulaire ou Otavio et tout, j'ai pas l'impression que l'écart, il soit si dingue. Et puis surtout, la vraie info.
C'est Ronaldo.
C'est tombé. Mon fils, il a couru dans la maison, il dit, papa, Ronaldo sur le banc. Je lui ai dit, bah oui, mais on s'en doutait. Il fait, ouais, mais bon, quand
non,
même.
Moi, honnêtement, je pensais qu'il allait être titulaire.
Donc, il fait démarrer Ramos. Il y a une attaque neuve, du coup, le fait qu'il n'y ait pas Ronaldo avec la sélection du Portugal. Je ne sais pas si on mesure l'information.
Il y a eu quelques matchs l'année dernière qui sont bien passés d'ailleurs.
Ça n'avait pas la même signification, là, quand même.
Bien sûr.
Non, la différence.
Donc, la signification, elle est énorme. Et ce Ramos, Moi, je me dis, putain, la pression qu'il va prendre le gars à remplacer Ronaldo. Qu'est-ce qu'il a fait de la pression?
Il y a Ramos et Santos, parce que le choix, c'est quand même Santos. Oui, alors, après tout ce qui s'est passé, cette fameuse sortie contre la Corée du Sud où Ronaldo dit une chose et finalement, il se rend compte que, il se fait démentir par Fernando Santos en conférence de presse, qui dit, j'ai vu les images, j'ai pas aimé. Juste quand même, parce qu'il y a une grosse différence entre les matchs où Cristiano Ronaldo n'était pas là. Je pense notamment à la Ligue des Nations où le Portugal avait bien joué et les matchs où Cristiano Ronaldo est sur le banc. Pour moi, il y a une nuance qui est très importante. C'est-à-dire que ce soir, c'est pas Cristiano Ronaldo, il est pas là. C'est Cristiano Ronaldo, il démarre sur le banc.
Absolument.
Le symbolisme. Je vous donne une stat. Vous savez que Ronaldo, il est recordman de sélection. En 142 matchs qu'il a joué avec le Portugal, match à enjeu, on enlève la cinquantaine de matchs amicaux. Il y avait que 4 fois où il avait démarré sur le banc.
Mais j'imagine pour des raisons objectives ou des raisons.
Alors, la dernière fois, c'était au mois de juin face à l'Espagne, match de Ligue des Nations.
T'es moins fort, tu joues plus.
Alors, en juin.
Le sens de ce soir, c'est ça.
Non, ce soir, il y avait et le côté performance et le côté finalement. Sanction également. Mais juste quand même pour revenir à la compo de départ, il y a le choix Cristiano Ronaldo. Mais moi, il y a un truc, et on en avait parlé déjà un petit peu hier. Fernando Santos, on lui est beaucoup tombé dessus ces derniers temps, et à mon sens, à juste titre, pour tout ce qu'il faisait. Moi, depuis le début de la Coupe du Monde, j'ai aucun reproche à faire à Santos. Il fait totalement l'inverse de ce qu'il a fait jusque-là. Il n'est pas résultatiste, il n'est pas conservateur.
C'est vrai.
Il n'y avait aucun numéro 6 dans le 11 de départ aujourd'hui.
C'est vrai.
Il avait fait les deux premiers matchs avec Ruben Neves, c'était le seul numéro 6 qu'il avait. Il a eu les Corones, j'aime pas cette expression, mais il a eu le courage de mettre Ramos, João Félix en attaque, Bernardo à un poste où il était électron libre. Il était partout, Bernardo, encore aujourd'hui.
J'ai vu le Bernardo de City que je ne vois pas toujours au Portugal.
Tu te souviens, on a eu le débat il y a deux matchs.
Il avait été bon aussi contre.
Et Bruno aussi, il est bon ce soir.
Mais Bruno, depuis le début de la Coupe du Monde, pour moi, c'est
une révélation.
Il a souffert de la présence de Ronaldo. Ouais. Il a beaucoup souffert. Ce soir, j'ai vu une équipe totalement libérée. Je ne sais pas où elle va aller. Pour chaque pays qui est encore présent, on peut imaginer une histoire belle. Pour Messi et l'Argentine, on imagine. Pour Neymar et le Brésil, on imagine. Chaque pays peut avoir, pour l'Angleterre, parce que ça fait depuis 66, chaque pays peut construire sa belle histoire. L'histoire du Portugal, ce serait de gagner la Coupe du Monde ou d'aller en finale et que Ronaldo participe à la fête d'une façon ou d'une autre, un hommage, les 10 dernières minutes, les 5 dernières minutes. Tout le monde peut imaginer la belle histoire pour son pays. Pour Ronaldo, c'est comme ça que je la vois. C'est un Portugal qui va en finale, qui mène, qui le fait rentrer et c'est lui qui va soulever la Coupe. Et je pense que le pays est en extase.
Bien sûr. Non, mais c'est pour revenir à ce que je disais juste avant le match, moi là.
Mais il doit plus jouer, c'était ma conclusion. Ouais. Mais il doit plus être titulaire.
Non, mais moi de toute façon, c'est très très fort ce qu'a fait Fernando Santos et je le disais aussi avant le match. Ça, Nico, tu l'as pas noté. Il avait déjà eu beaucoup de courage, comme on dit, en sortant Rui Patricio, qui est quand même une légende du football portugais, et pour mettre Diogo Costa dans les barrages, qui était ultra important. Là, dans un huitième de finale, il a le courage encore une fois, encore plus grand, de sortir la légende Cristiano Ronaldo, la légende des légendes, et pour mettre un Gonzalo Ramos qui sort de nulle part, même s'il est excellent avec le Benfica depuis le début de saison. Mais comme disait Daniel, un jeune joueur, on sait pas du tout ce que ça va donner, etc. Derrière, il fait aussi des gros choix. Personne voulait voir au Portugal Guerreiro depuis le début. Il met Cancelo sur le banc, qui était titulaire indiscutable à droite ou à gauche.
Bah oui.
Au milieu de terrain, il met Otavio. Moi, j'avoue que même s'il est très correct aujourd'hui, c'est vraiment pas mon joueur préféré, mais il est aussi plutôt bon. Et l'autre, c'est João Félix. Alors João Félix, moi, je l'ai commenté tous ses premiers matchs sur RMC Sport de sa carrière. Les 20 premiers, je les ai commentés. Il avait été excellent. Je ne l'ai jamais vu à ce niveau-là, alors que ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué au foot quasiment. En tout cas, enchaîner des matchs.
Tu crois pas que tous ces mecs-là sont libérés par la
France
de l'autre?
Mais ça, on l'avait déjà vu en Ligue des Nations. Le Portugal, beaucoup plus libéré, sans avoir cette cible toujours à dire, ouais, Ronaldo, qu'est-ce qu'on fait?
Tu sais quoi? Moi, je sais pas si c'est le fait qu'il soit pas là, ou si c'est le fait qu'il se soit fait recadrer, encore une fois. C'est-à-dire que, Fernando Santos, jusqu'ici, il avait tendance à avoir toujours un discours des circonstances,
mais là,
à être très politiquement correct. Mais c'est pas qu'il peut plus, c'est que là, c'est terminé. Là, hier, la posture publique qu'a eu Fernando Santos vis-à-vis de lui, il a expliqué, maintenant, c'est moi le boss. Pardon, cri-cri, mais non seulement quand t'es sorti, j'ai pas aimé ton attitude, et en plus, derrière, t'as pas dit la vérité. Donc, je vais te démentir.
Finalement, ça l'a pas servi, Nico, Fernando Santos, ce dernier écart de Cristiano Ronaldo.
Je sais pas. Après, c'est facile maintenant de dire ça, mais en plus, je vais même te dire, pour en revenir à la compo de départ, ce matin, moi, j'ai épluché tous les quotidiens sportifs, les trois sportifs, plus la presse généraliste. Il y a pas un journaliste qui ne mettait pas Cristiano Ronaldo titulaire. C'est-à-dire que tout le monde a vu hier la sortie de Santos en conférence de presse comme un avertissement, mais personne n'imaginait Cristiano sur le banc.
Attends, j'avais pas compris que t'allais dire ça. Je pensais que tu disais
exactement.
Tout le monde le voyait titulaire.
Non, mais il y a pas. Mais moi le premier.
Tu veux dire que les gens
en voyant la
que les gens au final étaient convaincu que c'était
Daniel,
impossible.
Moi, hier, j'ai suivi la conférence de presse en direct.
C'est fou, ça.
Hier, j'ai suivi la conférence de presse en direct. Déjà, tout le monde était abasourdi. C'est-à-dire que tu sentais même l'ambiance en conférence de presse en disant, mais attends, Santos, il est en train de mettre un tir à Ronaldo, là. Ouais. Il est en train de dire, non, j'ai pas aimé. Et là, on s'est tous dit, OK, tu lui as mis un avertissement. Maintenant, tu vas le piquer. Demain, tu le mettras titulaire. Mais d'ailleurs, mais pour des raisons qu'on a évoquées hier, qui sont objectives. Mais moi, je dis comme Kevin. Moi, je vois Gonçalo Ramos. Et comme toi, je me dis, mais attends, la pression, le gamin, il a 21 ans.
Ah ouais, c'est
incroyable. Il débute avec Léa. Il a pas une vraie expérience. Joao Félix, il enchaîne pas les matchs en ce moment. Même s'il est, d'ailleurs, Simeone l'a dit, hein, avant la Coupe du Monde. Il a dit, vous savez quoi, une Coupe du Monde, c'est la compétition parfaite pour Joao Félix. Mini championnat, il va tout donner pendant un certain temps. Lui, il peut pas être bon dans un marathon, mais au sprint ou sur le 1000 mètres, il va être au taquet.
Il est incroyable. Incroyable.
Mais personne n'imaginait Ronaldo.
Le fait que tu dis ça, je suis très très pressé de savoir ce que dès ce soir vont dire les éditorialistes au Portugal de ça finalement, parce que je mesurais pas. Évidemment que je mesurais que c'était un événement incroyable, mais pas au point de ce que tu viens de dire, malgré l'événement, malgré ce qui s'était passé, tout le monde le voyait sur le terrain et même vous.
Mais parce qu'on connaît
le voyait. Mais Nico rappelle ce sondage là proposé par Abola.
Attention, c'est pas un sondage.
70%. C'est pas un sondage.
Non. Si, c'est un sondage,
mais c'est pas avec un échantillon représentatif de la population portugaise, effectivement. 70% disaient vouloir Ronaldo sur le banc pour ce huitième de finale.
Parce que moi aussi, c'était le résultat n'était pas le même, mais c'est pas un sondage dans ce cas-là. C'était sur le site internet. Ceux qui ont voté à 70% ont dit Ronaldo doit être sur le banc, mais ça veut pas forcément dire que
sens.
Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, avant la Coupe du Monde, et là pour le coup, c'était un sondage. Le Courrier d'un Magnien, qui est un quotidien un peu sensationnaliste, enfin très sensationnaliste, avait pour le coup commandé là un vrai sondage. Et avant la Coupe du Monde, il y avait 40% des Portugais qui voulaient Cristiano sur le banc. C'est énorme,
40%. C'est beaucoup.
C'est énorme. La Coupe du Monde.
Mais d'un autre côté, il y avait peut-être 70% des Portugais qui voulaient plus de Fernando Santos comme sélectionneur.
Mais bien sûr, carrément. Mais c'est vrai, c'est vrai.
Mais franchement, essaye de regarder.
Alors qu'il va prolonger vraiment les premiers comme Deschamps.
Là, j'ai les titres déjà, si tu veux, des canards. Vous les voulez ou pas?
Oui, bien sûr.
D'abord, on accueille Ludovic. Nico, dans un instant, tu les donnes. Supporter portugais. Salut, Ludovic.
Hola, boa noite, amigos!
C'est quoi Ludovic en portugais? C'est un vrai prénom portugais,
non,
Ludovic?
Non, Ludovic, mais c'est pas, non.
Il y a beaucoup de Ludovic.
Il y a bien Cédric, international portugais.
Bonsoir, tu sais. Tout le monde.
Cédric, c'est pas pareil.
Mais Ludovic, c'est parce qu'il est né en Allemagne, lui. Non, c'est vrai, c'est vrai.
Oui, t'as raison, c'est ça. Bonsoir, Ludovic. Alors, raconte-nous un peu comment t'as vécu ce match.
Bonsoir.
Et quels sont. Parlons des joueurs qui ont joué, hein, même si Ronaldo est entré en fin de rencontre. Qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a plu plus globalement dans cette sélection ce soir?
J'ai presque pas envie de parler des joueurs. J'ai presque pas envie de parler de tout ça. Je voudrais. Est-ce que Daniel, tu me remets le socios de Benfica que t'avais eu pour le Benfica PSG? On avait longuement discuté. J'étais stressé vis-à-vis de Benfica et je t'avais dit l'irrationalité du supporter. Et hier, je sais pas si tu me remets. Et hier, je crois que Nico vous parlait de là un peu la mélancolie portugaise. Et ben moi en fait c'est pareil. Et là, ce soir, j'ai juste envie de retenir, c'est même pas les buts, c'est juste le plaisir que j'ai eu à voir ce match. La joie que cette équipe m'a procuré. Vraiment, en une mi-temps, surtout la première, on a eu plus d'occasions, plus de jeux quasiment que les trois premiers matchs. On voit des sourires. Franchement, les gars ont été costauds. Le petit jeune, là, Made in Benfica, Gonçalo Ramos, grosse pression, Cristiano sur le banc. Il t'a mis un triplé, c'est presque inimaginable. 6 buts, 4 joueurs différents qui ont marqué. Et franchement, le patron, Nico, il le sait. Même à l'Euro 2016, le grand patron, c'est Pep. Bien sûr, Ronaldo, c'est le capitaine. Ronaldo, c'est la lumière, c'est le flambeau. Mais celui qui tient le flambeau, c'est qui? Le vrai patron, c'est Pep.
Quelle légende.
Et puis il devient le joueur le plus vieux à marquer. Vraiment, je pense que tous les supporters portugais doivent être comme moi. On a tellement. Comment dire je vais faire un parallèle. Je pense que si tu es supporter de n'importe quelle nation africaine, tu vois, à part faire une Michel Blanc, vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut passer. Tu rêves de quoi? D'un quart, d'une demi. Mais nous, portugais, depuis plusieurs années, avec la compétence qu'on a, le niveau qu'on a, on espère quand même autre chose, aller un peu plus loin.
Oui, que ce soit l'année du titre avec une telle génération, que ce soit l'année du sacre mondial. Oui, je comprends, c'est tout à fait envisageable en plus.
On a, quand tu vois ce qu'on a de base, et la chute est toujours plus forte. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette mélancolie. Moi, je suis toujours un peu stressé. L'adversaire, je le fais toujours un petit peu plus gros et tout. C'est ce qu'expliquait Nicolas hier, notamment. Et là, vraiment, c'est un soulagement. Bon, j'espère passer contre le Maroc, j'espère aller loin, mais au moins, on retiendra ce match. Et même en dehors du Portugal, je pense que ça va beaucoup.
Ah bah, 600 en 8e, ouais, contre la Suisse.
Un vrai match, tu vois. Hier, franchement, on n'a pas un grand bol de plaisir avec le Brésil. Ce soir, le Portugal a répondu. Je suis vraiment soulagé, content.
Non, mais surtout, Ludovic, que le Portugal, c'est surprenant quand même, parce que, ok, ça reste la Suisse, mais la Suisse, c'est une équipe difficile à jouer quand même.
Allez, Suisse ne prend jamais une raclée pareille, ouais. Hein, attention. Hein.
L'équipe de France peut nous en parler. L'année dernière, c'était compliqué Juste termine rapidement, Ludovic, mais c'est vrai que moi, je pensais pas du tout qu'il y aurait un tel écart. Par contre, c'est vrai que je préférais prendre les Suisses que la Serbie, parce que la Serbie avait vraiment embêté le Portugal il y a quelques mois et les avait envoyés en barrage. Maintenant, moi je suis d'accord avec toi pour insister sur Pep qui a été vraiment excellent, mais il va chercher le ballon là. Je sais pas combien il a été le chercher, un timing magnifique défensivement depuis qu'il a pris
la place de Danilo au Portugal. Parce que vous voyez, quand vous en parlez comme d'un taulier,
c'est un phénomène.
Pep, pour moi, Pep pour moi, c'est quand même c'est un joueur qui est quasiment fini et tout. Donc parlez-moi de lui.
Il y a deux choses
dans son importance.
Il est qualifié quand même.
Oui, mais je sais bien.
Mais sa popularité, il y a deux choses qui, le desservent.
Un vrai portiste.
C'est que il est très étiqueté FC Porto, mais vraiment beaucoup, et notamment dans les classicos, les derbies, les classicos pour le coup, il a souvent eu des postures un peu.
Donc les mecs de Benfica peuvent pas le blairer, quoi.
Voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est-à-dire la moitié du pays, ou plus de la moitié du pays. Ouais. Après, je schématise, tout le monde, le clubisme va quand même un peu mieux ces derniers temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il est naturalisé, c'est-à-dire c'est un Brésilien à la base.
Et
moi je me souviens d'un match, je crois que c'était contre l'Allemagne au Brésil, il me semble,
Et
José Mourinho qui l'avait eu
raclé contre l'Allemagne.
José Mourinho qui l'avait eu comme entraîneur au Real, où ça s'était pas bien passé, parce qu'à l'époque Pep faisait partie des joueurs qui s'étaient rangés derrière Casillas, avait écrit un édito dans la presse au Portugal où il avait écrit noir sur blanc: Pep a plus d'obligations que les autres d'être exemplaire parce que ce n'est pas un vrai Portugais. Il a écrit ça mot pour mot. Donc si tu veux, et alors ce qui est terrible, c'est que Pep, c'est vraiment un mec qui se sent profondément portugais. C'est pas le mec qui a été naturalisé à la va-vite. Ça fait des années, d'ailleurs les processus de naturalisation au Portugal des joueurs se font en toute légalité. Il faut que tu aies 5 ans de résidence dans le...
Ça c'est sûr.
Non, mais même Liedson, il a fait ses 5 ans de résidence, même plus, et après il a eu son passeport. Après, lui, il avait 30 et quelques années quand il a eu le passeport, mais il n'y a pas de passe-droit, si tu veux. C'est pas parce que t'es footballeur que t'es portugais, tu vois.
Nicolas, et je sais que Daniel l'aime beaucoup. Moi, je disais à mon père tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de partager ce match avec mon papa. João Félix, il avait pas des ailes aujourd'hui.
C'était élégant, c'était aérien, c'était magnifique, rien à voir avec celui qu'on voit à Madrid.
Mais qui s'en aille ou qui change d'entraîneur là-bas.
Eh oui, mais ça dépend pas que de lui, malheureusement.
Oui, enfin, qu'il change de club.
Il avait le sourire. Et je voudrais une mention spéciale à mon joueur, après Rui Costa, mais mon joueur préféré, et qui est le sous-côté, mais je m'en fous. Et un jour, vous verrez, il sera président de Benfica. C'est au Bernardo Silva. Vraiment, j'ai un grand mot d'amour pour ce joueur qui est incroyable, qui travaille. Qui bouche les trous,
c'est l'intelligence incarnée.
De son corps, de sa sueur et tout. Vraiment, Bernardo Silva, si je pouvais l'avoir devant moi, je prendrais dans mes bras.
J'ai eu peur. C'est pas encore la libre antenne. Hein,
et dis-moi, Deco, il avait pas souffert de la même chose.
Alors tu sais pourquoi Deco? Parce que Deco, en plus, il arrive au moment où Rui Costa est sur la fin, et Deco prend la place de Rui Costa. Et à l'époque,
c'est une légende.
Et à l'époque, donc on est au début des années 2000, il se passe un épisode que d'ailleurs les intéressés ont toujours démenti, mais ça fait partie de la légende, et en off, beaucoup savent que c'est très certainement vrai. C'est qu'il y a un petit pool de joueurs d'historique du Portugal, où il y avait Figo, il y avait Rui Costa notamment, et d'autres joueurs historiques du Portugal, qui ont créé un groupe.
Figo, il
a
fait un peu la misère à Deco.
Et justement, parce qu'il considérait que c'était pas entre guillemets un vrai Portugais, Deco. Deco, en fait, avait été l'un des premiers naturalisés pour la première fois depuis des années. Et il a un peu ouvert la porte, c'était Scolari le sélectionneur. Et ça, pour le coup, ça pareil, ça lui avait un peu desservi le fait que ce soit Scolari, etc. Et juste une chose, que Ludo en parlait aussi tout à l'heure, je vous donne par exemple le titre du site numéro 1 de foot au Portugal, qui est My Football. Le titre, c'est pourquoi? Parce que le Portugal, Nico Jamal le disait tout à l'heure, depuis 2006, ils n'avaient pas atteint les demi-finales de la Coupe du Monde.
Là, en plus, demi-finale, c'est le quart là.
Oui, mais enfin, alors je corrige, pardon, ils n'allaient pas au-delà des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, donc d'accord. Là ils vont au-delà des huitièmes, et surtout une chose, et on en revient pour boucler la boucle, on parlait de Santos au tout début, Santos donc hyper décrié et machin, c'est le premier entraîneur portugais qui va au-delà des huitièmes de finale d'une Coupe du Monde, qui a atteint un quart de finale. Jamais un sélectionneur portugais, toutes nations confondues, les Carlos Queiroz, même pas dans les années 60, c'était un Brésilien à l'époque en 66, jamais un sélectionneur, un entraîneur portugais n'avait atteint un quart de finale de Coupe du Monde. Et ça au Portugal.
C'est qui en 2006?
C'est Scolari.
Il y a quand même un mot à dire pour conclure sur Fernando Santos, hein, parce que
je pense que la chose la plus difficile
pour un entraîneur, ça reste de se réinventer, ça reste d'aller contre ses principes, et il a réussi à le faire. Je le disais, en barrage, il s'est réinventé, il a enlevé le gardien, là il enlève Ronaldo, et depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est vrai qu'il a fait quasiment que des bons choix. Son équipe, elle joue mieux. C'est pas encore le Brésil, mais ça arrive. Je ne sais pas si les Portugais vont danser à la fin, mais en tout cas, Fernando Santos a réussi sa petite révolution.
Ludovic, vas-y, le mot de la fin pour toi.
Alors, deux mots très rapides. Le premier, pour Daniel, je t'avais envoyé dans un mail le documentaire sur le Benfica Campus, le centre de formation de Benfica. Quand on voit, je sais pas si tu te rappelles, quand on voit Enzo Fernandez avec l'Argentine, Gonçalo Ramos aujourd'hui, bon.
Benfica, mais il est pas formé au Benfica, Enzo Fernandez.
Non, mais où est-ce qu'il a quand même explosé, Robert?
Il vient d'arriver. Hein.
Non, il a explosé.
Il vient d'arriver, il explose à River, Ludo.
Mais bon, c'est un bon centre de formation quand même. Vas-y.
Et dernière chose, je sais pas quand je repasserai. C'est un petit mot pour l'after foot, pour Daniel, pour Gilbert, pour ce que vous faites au quotidien. On vous suit. Et un mot spécial pour Nicolas, la team Blogolo est là. Tu le sais. Et surtout, Daniel. Merci, parce que t'as beaucoup été décrié, mais t'es peut-être une des personnes en France qui a toujours valorisé et respecté le football portugais et qui lui a le plus donné sa parole, avec Nicolas Villas notamment, qui traite le football portugais en dehors du clubisme. Et je suis pas là à faire de la lèche parce que vous en avez pas besoin.
J'ai hâte que t'en fasses alors, voir ce que ça donne. Hein,
mais c'est vraiment, les gars, ça fait plaisir qu'au fil des années, moi j'ai beaucoup évolué et appris aussi avec vous, et je suis la revue, et notamment, mais franchement, grâce à RMC, grâce à Gilbert, grâce à Daniel, et ben moi j'ai lu ma revue de l'After, et il y avait un papier de Nicolas Villas sur Académica de Coimbra, qui est un club mythique du Portugal.
Tu regarderas la libre antenne, j'aurai la casquette ce soir.
Et ça c'est possible en France, c'est grâce à vous. Donc franchement, merci.
Merci Ludovic.
On écoutera le podcast Jogar. On va en faire un sympa.
On essaye d'avancer, effectivement.
Si tu veux me faire venir dedans, je t'ai déjà dit, je suis au taquet.
Ça marche, Ludo.
Alors rendez-vous est pris, Ludovic. Merci Ludovic.
Obrigado, Ludovic.
Salut Ludovic.
Et à la prochaine.
À bientôt.
Ah oui, Ginge.
Très bonne soirée à toi Ludovic. Nico, merci. On te retrouve dans 1h40 à peu près pour la Libre Antenne.
Avec Thibaut Jean.
En train doucement de s'installer là sur RMC, Libre Antenne. Beaucoup de témoignages magnifiques.
Je ferai ma première dans la Libre Antenne pour traiter la victoire du Portugal.
On est en hélico-tub apparemment, mais c'est une autre histoire.
Ah ça. Oui, d'accord, c'est ça le ton, c'est ça effectivement.
Oui, tu verras.
À minuit, c'est encore mieux. Allez Nico, à tout à l'heure dans la Libre Antenne. Dans un instant, on parle de l'adversaire du Portugal en quart de finale de ce mondial, le Maroc bien sûr. On sera avec un confrère marocain en studio ici à Doha. Jusqu'où le Maroc peut-il aller? Quelle chance face au Portugal? On va revenir aussi sur sa victoire, sa qualification au tir au but face à l'Espagne. On parlera de Luis Enrique, également soutenu par tous ses joueurs après son élimination prématurée dans cette Coupe du Monde. Reste avec nous, c'est l'After, et je vous rappelle que pendant le mondial, grâce à RMC et Foot Corner, vous allez pouvoir remporter des maillots des équipes nationales aujourd'hui. Vous allez gagner le maillot de la sélection portugaise. Pour le remporter, il faut envoyer foot au 7-32-16. Foot au 7-32-16. La suite de l'After, intégrale Coupe du Monde sur RMC dans un instant, 22h23 à Paris, minuit 23 à Doha au Qatar. À tout de suite.
RMC After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, vous écoutez RMC, After Foot Intégral Coupe du Monde, 22h28 à Paris, minuit 28 à Doha au Qatar, en direct du studio RMC. Dans un instant, on parlera de l'équipe de France, bien sûr, à 3 jours désormais de son duel en quart de finale face à l'Angleterre. Ce sera samedi à 20h sur RMC, bien sûr, avec un dispositif exceptionnel en direct du stade d'Albaït pour ce match entre Français et Anglais. Juste avant, 4 heures plus tôt, il y aura donc un Portugal-Maroc. Car oui, le Maroc s'est qualifié aux dépens de l'Espagne, 0-0 à l'issue du temps réglementaire, de la prolongation, tir au but catastrophique pour les Espagnols. On en parle tout de suite sur RMC, notamment avec Fred Hamel. Bonsoir Fredo.
Hola chicos.
Et j'accueille aussi, Fredo. Il était là avec nous hier soir dans l'after, Nasreddin Nasri, journaliste marocain. Salut Nasreddin.
Bonjour à tous les auditeurs, je suis très très content de venir.
T'es encore un peu essoufflé, t'as vu?
Ouais, je suis encore avec la tenue du Maroc, avec le numéro 8, Azedine Ounahi.
T'as vécu un grand moment. D'ailleurs, Ounahi, on en parlera aussi parce que Luis Enrique a eu un hommage incroyable en conférence de presse au milieu de terrain offensif du SCO d'Angers.
Il ne le connaissait pas.
Il ne le connaissait pas, mais bon, il a reconnu. Il a dit, mais qui est ce joueur? Qui est ce numéro 8? Il joue où exactement? Ounahi, ouais. Voilà, hommage pour Angers. Là, je pense qu'on est content Angers. Il prend plus de 10 millions.
Angers, ouais,
là, c'est une sortie comme ça.
Ah ouais, non, il va en Liga direct.
Là, c'est plus 10 pour Ounahi.
C'est la façon, Boufal, là, il apprend.
Plus Boufal qui fait un gros match également. Tout va bien pour le SCO. C'est une bonne nouvelle aussi. Alors, Fred, raconte-moi un peu ce qu'on dit en Espagne ce soir. Est-ce qu'on tombe sur Luis Enrique ou pas vraiment?
Ah oui, ah bah bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a plein de choses. Déjà, contre le Japon, on avait vu que beaucoup de gens s'inquiétaient. Enfin, moi, j'ai jamais été surpris, hein, ça vous le savez. Mais les Espagnols se disaient qu'il y avait des choses qui étaient pas normales contre le Japon. Que Luis Enrique n'avait pas de plan B. Et là, en fait, il a eu des choix très étonnants dans son 11 de départ. Le fait qu'il n'y ait pas Morata, par exemple, qui a été quand même le meilleur buteur de cette sélection. Le fait que en latéral droit, il a mis Marcos Llorente. Rappelez-vous quand un certain Diego Pablo Simeone faisait ça avec l'Atlético, tout le monde lui tombait dessus à juste titre. Ça a été un 11 très étrange. Et puis Luis Enrique n'a à aucun moment eu les ressources tactiques pour essayer de bousculer cette équipe marocaine. En fait, ce qui se passe, l'Espagne, quand tout va bien, tout va bien. Mais dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, eh ben, ça ne marche plus et il n'y a pas les ressources de talent, ça on le sait, mais il n'y a pas les ressources tactiques du côté de Luis Enrique. Il n'y a pas un changement qui a pu, à un moment, réussir quelque chose. Si, il a fait un changement. Il a fait rentrer Sarabia pour tirer le tir au but alors qu'il a joué quelques secondes et il l'a raté.
2 minutes, ouais.
Ouais, enfin.
Bon, ça, il a assumé, Luis Enrique, Fred, en conférence de presse.
Oui, bien sûr, mais.
J'assume la responsabilité. C'est moi qui choisis les 3 premiers tireurs de la séance, Sarabia, Soler et Busquets.
Bien sûr.
Et
bon, ils sont prêts. Après, il faut quand même dire que pour sortir les Espagnols, c'est le seul moyen. C'est de traîner jusqu'au péno.
Oh non, ouais, mais enfin, excuse-moi, mais t'as vu comment ils ont joué. Enfin, excuse-moi. De toute façon, moi, j'étais le premier à dire depuis le début.
2018, tu te fais sortir au péno. À l'Euro, tu te fais sortir au péno. Ce soir, tu te fais sortir au péno. Il y a quand même une réalité qui est. Il y a une limite, c'est que effectivement offensivement, un peu à l'image des Allemands, ils ont peut-être pas un œuf pour créer des brèches.
Mais surtout qu'il les a pas emmenés les deux meilleurs.
En plus, il en avait un, il l'a pas mis.
Non, ça,
moi, j'ai vu sur le premier match un très bon Azpilicueta que j'ai pas revu, c'est dommage. Je pense que j'aurais mis également parce qu'il a des qualités de percussion qui me semblent intéressantes. Moi, j'aime bien Llorente, mais bon, ce soir effectivement, c'était pas un bon choix.
Son poste, c'est pas latéral. Hein.
Néanmoins, il faut quand même dire que quand il tout le monde aujourd'hui semble avoir la recette maintenant. Les Russes avaient fait ça.
C'est exactement le même match. Hein. Plus de 1000 passes et
tu mets un autobus, t'attends les pénaux, tu pries. Bon, bah voilà, c'est connu. Tout le monde veut faire ça contre l'Espagne. Très bien. Bon, quand ça passe, ça passe. C'est visible. Et encore une fois, les 3 dernières compétitions internationales, ça s'est terminé de cette façon. Moi, pour le football, c'est effectivement toujours un regret parce que j'aime bien cette équipe, mais là, elle est prise un peu en défaut, et comme en plus il y a des choix tactiques effectivement qui sont pas bons.
Et des choix de personnes aussi parce qu'il n'y avait pas de leader sur le terrain.
Mais après leur tomber dessus, ou je suis pas vraiment d'accord parce que qu'est-ce que tu veux dire? Quand ton adversaire, la seule issue qu'il a, c'est de te traîner au péno.
Bon, okay, je suis pas d'accord. Bien. Je suis pas d'accord. Le Maroc a fait plus de tirs cadrés que l'Espagne.
Non, mais Fred, là, vraiment, alors vraiment, là, c'est d'une ignorance crasse absolue ce que tu dis.
Non, mais le Maroc a fait plus de tirs cadrés.
Faut pas me gonfler avec ce genre de choses.
Bah, excuse-moi, mais quand même.
C'est une stupidité sans nom de dire ça.
Bah, je suis désolé. Non, je suis désolé parce que toi, tu veux pas reconnaître qu'après le 7-0, tu veux pas reconnaître qu'après le 7-0, Daniel, tu voulais pas reconnaître qu'après le 7-0, moi, je posais des limites.
Fred,
en disant, moi, je ne crois pas cette équipe espagnole.
Ne dis pas n'importe quoi.
Attends, Daniel, laisse parler, Fred.
Il y a un truc qui n'a pas le niveau. Les trois dernières compètes, si tu vas pas au final, tu les sors pas.
C'est une équipe.
C'est vrai ou c'est pas vrai, ça?
C'est une équipe.
Tu les élimines pas dans le jeu. Dans le jeu, personne les bat.
Mais.
Oui ou non?
Oui, mais sauf que oui, mais on a vu ça,
non,
la même
oui
chose.
Ou non.
Le match contre, non, contre
oui
la
ou
Russie,
non,
on l'a vu. Il y a les 1000 passes, on les a vus il y a 4
et
ans.
Fred,
c'est exactement
oui ou
le
non.
Match contre la Russie.
Non, mais est-ce que tu peux répondre à cette question?
Ben, le Maroc,
si tu les traites pas au péno, tu les bats pas.
Mais l'important ce soir, c'est que les Espagnols ont fait un match de merde et qu'ils sont chez eux.
D'accord, Fred.
Et excuse-moi,
essaye de parler football,
Daniel. Laisse parler, Fred.
Je peux terminer ma phrase après le 7-0.
Termine,
vous étiez tous à dire formidable Espagne, quasiment candidate pour être en finale.
Mais elle l'est. Elle l'est à tous les coups. Elle l'est. C'est pas une erreur de le dire. Elle l'est contre l'Allemagne. Elle fait un très grand match.
Fred.
Et l'Allemagne a été également forte ce jour-là.
Daniel, s'il te plaît.
Tu analyses des résultats. Stade, toi, par football,
Daniel, vas-y, Fred.
Je termine simplement. Après le 7-0, tout le monde s'est été fou de joie. Moi, je suis un peu le spécialiste du foot espagnol. Je connais le niveau de ces joueurs. Ces joueurs-là ce sont des joueurs moyens. C'est tout. Et tu ne peux pas reproduire avec des joueurs moyens ce qui a été et qui a fonctionné avec des joueurs extraordinaires.
Avec une équipe moyenne, l'Italie a gagné l'Euro et a traîné l'Espagne au péno en étant dominée pendant 45 plus 30 minutes.
Daniel,
je parle football un peu.
Je vais te dire, Nico, très bien, tu es la seule personne en Espagne à défendre Luis Enrique.
Mais je ne le défends pas. Je ne le défends pas. J'ai dit qu'il y a des mauvais choix. Au-delà de le défendre ou pas, il y a une analyse à faire.
Daniel.
Une analyse, je te dis que l'Espagne, avec des joueurs qui effectivement, certains sont même pas tout le temps titulaires, c'est pas une équipe qui est aussi forte que par le passé, que celle du trio de 2008, 2010, 2012, évidemment, il n'empêche que cette équipe sur les trois dernières compètes, tu ne l'as pas qu'au péno.
On partage le temps de parole, Kevin après Nasreddine.
Et puis en plus, je pense que je vais être entre vous deux, donc ce sera très bien. Je vais tempérer un peu ce que dit Fred et parce que oui, l'Espagne est éliminé aujourd'hui. Mais footballistiquement, la meilleure équipe, c'est de loin la Roja. Et ça, peu importe que le Maroc ait réussi à sortir deux fois sur deux frappes cadrées. Aujourd'hui, je vais te prendre comme exemple la dernière action du match. À la 120e minute, moi, le commentateur, tout le monde, on se dit, mais qu'ils envoient le ballon dans la surface, qu'ils arrêtent avec leur passe. Et finalement, ils font tic. Tic, tic, et ça départ, et ça finit sur un départ et une passe incroyable pour Pablo Sarabia qui est esselé justement par ce jeu de possession au deuxième poteau. Sarabia qui reprend de l'intérieur du droit, lui le gaucher, et qui va toucher le poteau de la lucarne opposée. Et si le ballon est au fond, tout le monde dit l'Espagne a épuisé le Maroc et gagne logiquement.
Laisse-moi finir,
il me reste 30 secondes pour dire que on peut dire que Luis Enrique joue son numéro 9, on peut dire tout ce qu'on veut, mais moi je trouve qu'au vu des jeunes joueurs qui sont sur la pelouse, au vu des certains anciens qui sont enfin, moi je trouve que ce que fait l'Espagne, c'est exceptionnel.
Mais bien sûr.
Ça reste exceptionnel parce qu'ils ont un style de jeu.
Fred,
ils restent avec leurs idées. Ils vont au bout de leurs idées et perdre au pénalty, c'est pas un favori.
Ok, Kevin, on a compris. Non, Fred, excuse-moi, 30 secondes pour Nasreddine et je te rends la parole tout de suite.
Salut Daniel, salut Kevin et salut Fred. Daniel, est-ce que tu as une bonne mémoire? C'est Nas, est-ce que tu as une bonne mémoire? Tu te rappelles, on a parlé des pronos hier et je t'avais dit quoi? Je t'avais dit 0-0 péno. Tu t'en rappelles ou pas?
Oui, mais c'est pas une stratégie, ça.
Mais j'ai pas fini.
Vas-y, déroule, toi.
L'Espagne a joué, c'était de la possession stérile. Et j'avais dit hier que le Maroc allait jouer avec ses armes. Effectivement, il y avait une possession, mais c'était stérile. Et avant la Coupe du Monde, moi, j'étais pas d'accord avec le choix des hommes de Luis Enrique. Tu ne peux pas te permettre de ne pas appeler un gars comme Sergio Ramos. Gérard Piqué, je suis d'accord, tu l'appelles pas, mais Sergio Ramos, un leader, tu dois le
ramener. Il va te faire gagner le match, là.
Mais non, mais il te fallait un leader.
Daniel leader. Tu mets Rodrigue et milieu récupérateur.
Attends Daniel,
tu mets Rodrigue qui est milieu récupérateur.
Non mais Daniel, Sergio Ramos.
Mais laisse-moi finir. Tu mets Rodrigue et milieu récupérateur avec City, tu le mets en défense centrale, c'est pas sympa.
Mais quel rapport?
Mais quel rapport?
Il y avait rien à récupérer, ils avaient le ballon tout le temps.
Mais ils en ont rien fait, ils en ont rien fait. Mais ils sont éliminés, ils en ont rien fait. C'était
mais ils en ont rien pour moi. Mais c'est dingue, comment vous comprenez rien au ballon, c'est incroyable.
Il ne partage pas ton avis forcément.
Les gars, si vous voulez parler de stats, l'Espagne tire 6 fois au but, 2 fois cadré et 3 fois pour le Maroc. Donc l'Espagne a fait 2 fois plus de tirs que le Maroc. Donc me dites pas que l'Espagne, elle a rien fait de la possession. Ça s'est joué. Le Maroc, il y a une chose qui a été très bien et personne ne leur enlèvera, c'est qu'ils ont très bien défendu. Mais on peut pas me dire que l'Espagne ne mérite pas de gagner ce match. On peut la possession stérile, ça n'existe pas. Après, c'est pas la possession qui te fait gagner un match. On le voit tous les week-ends dans tous les championnats. Mais ne dire que l'Espagne a une possession stérile pour les accuser entre guillemets.
Quand tu mets une ligne de 4, une ligne de 6 à 20 mètres de tes buts, forcément, tu vas avoir une possession qui va pas tout le temps être stérile. Sauf que si les Espagnols marquent dans le premier quart d'heure, je me demande bien quel va être le plan B. Après, parce que le Maroc a des très beaux joueurs de foot. Vraiment, ils ont des très beaux joueurs de foot. Ils ont pris l'option de jouer comme ça. Je sais pas où ils vont pouvoir aller, parce que, ok, effectivement, une équipe qui réalise quelque chose d'unique dans son histoire, bah, forcément, ça reste. Et t'es obligé de dire bravo parce que c'est unique dans l'histoire d'un football. Très bien. Et parce que c'est un 8e qui t'emmène en quart de finale. Mais si c'est, j'en sais rien moi, un match de poule qui au final t'emmène nulle part et t'as juste fait de la même façon un 0-0 contre l'Espagne, qu'est-ce que t'en as à cirer au final? Là, c'est un résultat qu'on met en avant. Le résultat, ok, il t'emmène en quart de finale. Mais où veux-tu que le Maroc aille en jouant de cette façon? Avec les joueurs qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont, parce que vraiment, il y a des beaux joueurs dans cette équipe. Il y a des mecs qui ont été héroïques aujourd'hui. Il y a des gars, vraiment, je ne sais pas s'ils sont capables de faire.
Daniel, la manière, je pense qu'on s'en fout au Maroc ce soir, Daniel. On s'en fout de la manière, ils sont en quart de finale.
Nico, mais la question,
c'est quart de finale, le Maroc, ils sont en quart de finale. Comme l'Espagne.
Nico, c'est important.
Daniel, c'est une première fois.
Donc, c'est pour ça. Parce que c'est une première fois, c'est remarquable. Mais si tu analyses au-delà du résultat, si tu parles de football. Mais si tu parles de football, ça ne te mène nulle part de faire ça.
Daniel, parce que c'est unique, on le remarque.
Parce que c'est
ça
unique,
ne correspond pas à ta sensibilité.
Tu comprends la différence ou pas
également.
Non, mais la question, c'est une question de sensibilité.
Il n'y a pas de sensibilité. Quand tu apprends à jouer au foot quand t'as 10 ans, quand t'as 10 ans que tu apprends à jouer au foot quand t'as 5 ans. Le foot, on te dit, tiens, prends le ballon, joue avec le ballon. On t'apprend pas à jouer au foot sans le ballon.
Ça n'existe pas de
jouer au foot sans le ballon. Donc, que tu gagnes un match, parce que c'est ta stratégie de le faire sans le ballon, très bien, pour marquer l'histoire.
C'est ton moyen pour aller en quart de finale.
Mais qu'est-ce que tu en fais après? Contre le Portugal, tu penses qu'ils vont refaire ça? Et ça va remarcher à nouveau de faire ça?
Bien sûr que ça a marché. Ben, ça a marché contre la Belgique, Daniel.
Et donc ils vont le refaire et ça va marcher contre le Portugal.
Oui, ben ça a marché contre la Belgique, ça a marché contre l'Espagne et ça remarchera contre le Portugal.
Allez, on fait une pause. Ils seront champions du monde en jouant comme ça. Voilà.
Pourquoi pas.
On fait une pause, on revient dans un instant.
Et toi, tu aimes ce football là, toi.
Nasreddine, il est très content parce qu'il est en quart de finale.
Oui, parce que c'est son équipe. Mais donc on parle pas de football.
Le Portugal a été champion d'Europe comme ça, Daniel.
Ça n'a rien à voir. Champion d'Europe comme ça. Il me parle de son émotion. Il me parle pas de football là.
Oui, bien sûr. Mais l'émotion prend le dessus sur la manière ce soir.
Nous, on est neutre. Nous, on est neutre.
Dans un instant, je rends la parole à Fadamel. On va parler du Maroc aussi. Fred, tu restes avec nous, on va prolonger jusqu'à 23h. Vous nous appelez d'ailleurs au 32-16.
Qui va calmer tout le monde.
Fred, dans un instant, on fait une pause et je te rends la parole tout de suite. Sois patient. Dans l'after intégral Coupe du Monde avec Kevin Diaz, Daniel Riolo, Fred Armel et Nasreddine Nasri, journaliste marocain à nos côtés. Ici à Doha, 22h41 à Paris, minuit 41 à Doha. Tout de suite.
RMC. After Foot. Intégral Coupe du Monde. Intégral Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
L'Afterfoot intégral Coupe du Monde sur RMC, 22h46 à Paris, minuit 46 à Doha, avec Daniel Riolo, Kevin Diaz, Fred Hermel et Nasreddin Nasri, journaliste marocain qui est à mes côtés en studio ici à Doha. On parle de l'élimination espagnole ou de la qualification, c'est selon du Maroc pour les quarts de finale. Fred, je te rends la parole, je sanctuarise une minute pour toi pour répondre à Daniel et Kevin qui stigmatisent peut-être le jeu rudimentaire des Marocains pour celui-ci en quart de finale. C'est pas leur football,
moi,
on l'a compris.
J'ai surtout parlé de l'Espagne, mais bon.
Alors, je vais simplement dire, j'en ai que pour 30 secondes. Le problème, c'est que l'Espagne, aujourd'hui, a un jeu qui ne fonctionne plus et un jeu qui n'a pas d'alternative. C'est-à-dire que quand tout va bien, comme contre le Costa Rica, une équipe qui était passée totalement à côté de son match, il n'y a pas de problème.
Mais c'est pas l'Espagne qui l'avait fait passer à côté de son match.
Je termine. Il y a 12 ans, l'Espagne était championne du monde. Depuis 12 ans, l'Espagne a joué 3 Coupes du Monde. En 3 Coupes du Monde, l'Espagne a gagné 3 matchs. Un match contre l'Australie, un match contre l'Iran, un match contre le Costa Rica. Cette façon de jouer au football ne fonctionne plus. C'est tout. En 12 ans, 3 Coupes du Monde, 3 matchs gagnés.
Pour les éliminer, il faut aller au péno les 3 dernières fois. Il n'y a que au péno qui perd.
Ce système-là n'a permis à l'Espagne de gagner que 3 matchs en 3 Coupes du Monde contre l'Australie,
pour les éliminer,
contre l'Iran,
c'est
Costa Rica.
Les pénaux sur les 3 dernières compétitions.
Je sais pas quoi dire. Là, si ce que je te dis là, ça te fait pas réfléchir, te dire, il y a peut-être un truc à changer dans le système de jeu espagnol.
Ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas un truc à changer. Forcément, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément de très grande qualité offensivement.
Vous êtes d'accord, c'est
complètement différent.
Quand un sélectionneur ne prend pas les deux meilleurs buteurs espagnols de la Liga,
les 3 dernières compétitions, tu ne les as battus qu'au péno. C'est simple, c'est clair et net, ça. Il n'y a que les pénaux pour les sortir.
Et puis c'est pareil.
Plutôt que
Daniel, à charge pour les Espagnols de ne pas aller jusqu'au tir au but aussi.
D'accord, mais
à
charge
pour eux, mais pas pour l'autre. En revanche, pour l'autre qui joue de façon rudimentaire et qui n'a que ça comme stratégie, à lui on n'a rien le droit de lui dire, Nico. C'est ça. Les Espagnols, on a le droit de leur tomber dessus, de dire vous êtes des tocards, vous jouez pas au foot, c'est plus une méthode pour jouer au foot. En revanche, les autres, eux, on doit leur dire, c'est très très bien de jouer de cette façon-là. Non, mais foutez de ma gueule ou quoi, les gars?
Vas-y,
Daniel, et puis il n'y a pas que ça. Les gars, moi je suis d'accord pour dire que l'Espagne pourrait se réinventer parce que le jeu de possession, ça a du mal à être efficace depuis 3 Coupes du Monde.
On s'ennuie, Kevin, je suis désolé, vous vantez la qualité du jeu espagnol.
Parce que quand tu regardes le Maroc, tu vas pas t'ennuyer du coup.
J'ai pas dit ça non plus.
Un match, c'est une opposition.
Les gars, laissez-moi finir. Un match, c'est un rapport de force. C'est-à-dire que si on dit qu'on s'ennuie avec l'Espagne, on peut dire aussi qu'on s'ennuie avec les équipes qui jouent défensives face à l'Espagne.
Mais il y a une chose
qui est sûre, c'est que l'Espagne, elle pourra pas jouer comme l'Angleterre, l'Espagne. Puisque déjà, ils ont pas les gabarits. Donc, ils font ce qu'ils savent faire. Et déjà, dans le football ou dans n'importe quel sport, faire ce que tu sais faire, c'est déjà une qualité, je trouve. Après,
on passe notre temps à mettre en avant les particularismes culturels, les formations, les façons de jouer, les choses qu'on adore. Parce que c'est l'Espagne, vous leur tombez dessus parce que les 3 dernières compètes, ils ont été battus au péno.
C'est vrai que c'est trop pour l'Espagne. Et pour répondre à Fred, et je finis là-dessus, on me dit que l'Espagne sait pas faire autre chose. Mais la France, ils savent faire quoi d'autre que jouer le contre-attaque? Et l'Angleterre, ils savent faire quoi d'autre que les attaques rapides? Chaque pays a ses particularités.
Après, un pénalty de dehors, c'est... dans un football de transition.
Ça reste du détail.
Nous sommes aujourd'hui dans un football de transition beaucoup plus direct qu'il y a 12 ans.
Et donc tout le monde doit jouer de la même façon, Fred?
Non,
Il faut une uniformité culturelle dans le monde.
Laissez-moi parler, les gars.
Attendez.
Nasreddin, vas-y.
Daniel, je t'aime bien, on va pas s'embrouiller, je veux juste qu'on remette les choses dans leur contexte.
Même si tu l'aimes bien, tu peux t'embrouiller avec lui.
Non, je l'aime bien, mais...
Daniel n'est pas rancunier,
sache-le. Écoute-moi, Daniel, tu parles d'une équipe qui s'est qualifiée une seule fois pour les huitièmes de finale dans son histoire en 86. Tu parles d'une équipe qui 9 fois sur 10 fait du très beau jeu et qui se fait éliminer. Rappelle-toi en 98, le Maroc a tapé l'Écosse 3-0 et la Norvège et s'est fait éliminer. Je t'invite vraiment après l'after à aller voir le résumé de Maroc-Chili. On a produit du super jeu.
Mais tu disais
qu'on a des joueurs de qualité, Ziyech, Hakimi, etc.
Mais ce que je te dis,
attends Daniel, laisse-moi finir. Ce que je te dis, c'est que on est un petit pays de football qui se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale. Donc, c'est le milieu de terrain de l'Espagne a étouffé le milieu de terrain marocain. C'est un fait. Donc, le Maroc a joué avec ses armes. Walid Regragui, c'était sa stratégie.
et on pouvait pas faire autrement. Mais on est un petit pays.
Attention à ne pas mettre en corrélation le Maroc et l'Espagne. Là, pour l'instant, on parle de l'Espagne.
Ouais, voilà.
On parlera du Maroc
On parle de l'Espagne. Il faut pas que tu mélanges tout. Moi,
t'as parlé du Maroc comme aussi, j'ai dit Daniel,
tout à l'heure. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve en plus que le Maroc a vraiment des beaux joueurs de foot. Et il me semble, et tu as raison de le dire, c'était le choix sur ce match-là. Moi, je leur reproche pas d'avoir opté pour ce choix-là. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, contre le Portugal, ils refont la même et ils peuvent aller au bout en faisant la même. Ça, je n'y crois pas. Et s'ils le font, ben, je serais bien obligé. En fait, après, il y aura une distinction qui est claire et nette. C'était la même chose avec le Portugal en 2016.
En 2016.
Il y a un truc dans le football c'est l'émotion, l'analyse. Quand tu es neutre et quand tu n'es pas neutre. Donc, tu comprends bien que tu n'auras pas le même regard que quelqu'un de neutre sur la performance. Moi, je respecte et je comprends ton émotion. Par exemple, je disais pendant la pub à Kevin, l'année dernière, quand l'Italie sort l'Espagne au péno, je suis quand même assez lucide, et Dieu sait que la victoire m'a fait plaisir, je suis quand même assez lucide pour me rendre compte qu'à partir de la 46e, alors que le plan de départ était de jouer, de mettre du pressing, mais qu'après, l'Italie a pas vu la balle pendant la deuxième mi-temps et encore moins pendant la prolongation. C'est juste qu'à un moment, t'es mangé. Tu t'en sors autrement. Très bien. Là, carrément, c'était le plan de départ, de refuser le ballon, de jouer autrement. Moi, qui suis neutre et qui regarde, ça ne me plaît pas, mais je respecte ton émotion à toi. Je sais pas quel âge tu as, et je sais pas si tu as des enfants.
J'ai 38 ans. On parle pas d'émotion, on va parler analyse.
Je vais terminer avec un parallèle, si tu permets. Pour te dire la différence entre l'analyse objective et l'émotion. Si tu as des enfants, quand ton enfant de 5 ans, il t'apporte son premier dessin, qui est un vieux gribouillage pourri, tu vas être hyper ému. Ça va t'émouvoir, ça va te toucher, ou quand ta fille, dans le gala de danse de fin d'année, elle va danser, tu vas dire, mais c'est magnifique, t'es ému, parce que c'est ta chair, c'est ton sang.
Laisse-moi terminer.
Tu vas être ému. Et pourtant, ta fille, elle est pas danseuse étoile, ton fils, c'est pas Picasso. Tu comprends la différence entre la raison et la passion, mais là tu n'as pas
le fan marocain qui te parle, tu as le journaliste marocain qui te parle. Je travaille pour 5 médias, je te parle en tant que journaliste. On n'avait pas un autre moyen pour gagner l'Espagne.
Ah mais moi j'ai pas dit ça. Moi, c'était par rapport à ce que tu m'as dit, on va le faire à tous les matchs. Je pense qu'à tous les matchs, ça va être compliqué. Pour le faire contre l'Espagne, ça a marché. Très bien, tant mieux.
J'accueille Younes, Daniel, au 32-16. Salut Younes, supporter du Maroc.
Bonsoir.
Bonsoir Younes.
Salut. Bonsoir. Alors, supporter du Maroc et du TFC, donc comme ça, tout le monde me reconnaîtra. Donc ça fait 23 minutes que je suis au téléphone et que je vous entends parler, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de me laisser parler. Alors, pour répondre à Daniel, déjà première chose, le quart de finale, je vais le manger matin, midi et soir pendant 4 ans. Voilà, ça c'est le supporter qui parle. J'analyse pas le match.
Bien sûr.
Je parle en tant que supporter.
Oui.
Voilà, on est premier pays africain à sortir des poules en 86. On n'avait rien fait depuis, on était sur 9 défaites, 2 nuls, je crois. Enfin, c'était catastrophique en Coupe du Monde et on ne se qualifiait pas souvent. Là, on fait un quart de finale, c'est magnifique. Pour nous, c'est incroyable. J'ai plus trop de voix d'ailleurs. Ensuite, si on veut commencer à analyser, oui, je suis pas fan de ce football-là. Maintenant, je vais vous dire, si on avait marqué avec un but contre son camp ou quoi que ce soit, j'aurais été content de la même façon.
Évidemment.
Un but pourri, un but de raccro, un faux penalty, j'aurais été heureux. Voilà, parce que on n'est pas l'équipe de France. On n'est pas l'Espagne, on n'est pas le Brésil, on n'est pas une équipe qui sort des poules à chaque fois où c'est le minimum et la compétition commence à partir des huitièmes de finale. Nous, la compétition, elle commence dès la première minute du premier match. Contre la Croatie, on n'a pas joué comme ça contre l'Espagne. Contre la Belgique, même si on avait moins la balle, que contre la Croatie ou contre le Canada.
Non, vous avez fait un très beau match.
On a quand même pas joué comme ça.
Absolument.
Contre le Canada, on n'a pas joué comme ça, sauf en deuxième mi-temps où ça c'était la pression du résultat où on s'est un peu chié dessus en deuxième mi-temps et on les a laissés voilà. En défense, on a pris un but et c'est Aguerd qui le met. Voilà. Donc c'est pour dire que défensivement on est là. Je viens de regarder une stat tout à l'heure, Amrabat. Parce qu'on me parle du milieu espagnol, bravo, ils ont joué au ballon.
Amrabat, il a été extraordinaire. Extraordinaire.
Amrabat, il a gagné tous ses duels pendant 120 minutes.
Exactement. Il a été incroyable.
C'est impressionnant,
Younes,
de gagner.
Vas-y, je te laisse conclure, je te donne 20 secondes encore, Younes, ouais. Après, il faut qu'on parte en pause.
Donc, 20 secondes. Donc, ce que je vous dis juste, on a laissé jouer l'Espagne comme ça. On ne jouera pas comme ça contre le Portugal. On ne peut pas jouer comme
ça. Eh ben voilà, c'est ce que je voulais entendre, Younes.
Non, mais je vais t'expliquer tout simplement. Parce que tactiquement, les Espagnols, à part Asensio, il n'y a personne qui peut te mettre une frappe de 25 mètres dans la lucarne. Il n'y a que Asensio qui pouvait faire ça. Et il ne l'a pas fait.
C'est vrai.
Tu vois ? Contre le Portugal, ça peut venir de partout. Les frappes de l'extérieur de la surface, il y a au moins 6 joueurs qu'on peut citer qui peuvent te
si
mettre.
Si tu mets une grosse densité devant la surface, la frappe, elle va être dure à mettre. Hein.
Elle va être dure à mettre, je suis d'accord avec
Ils
toi.
Ils n'ont pas eu d'espace de frappe, les Espagnols, tout à l'heure. Hein.
Merci Younes. Younes, je te remercie d'avoir fait le 32-16. Désolé, tu pourras nous rappeler d'ici ce quart de finale.
Mais je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit.
Portugal. Allez, on fait une pause, messieurs. Je remercie Fred. Bonsoir, Fredo. Tu es libéré.
Bonjour, les amis.
Fin de Coupe du Monde pour toi. Très vite sur RMC. On te retrouve dans quelques jours. Merci également à toi, Nasreddine, d'avoir défendu tes arguments ici face à Daniel et Kevin. Très bon, Nasreddine. Merci à toi, Nasreddine. On revient dans un instant. Je vous rappelle que le gagnant du jeu s'appelle Rémi, le jeu foot corner. Il remporte le maillot du Portugal, de la sélection portugaise.
Gagnez votre maillot sur RMC avec footcorner.com. Les maillots de vos équipes favorites et toutes les plus grandes marques de sport sont sur footcorner.com.
Allez, dans un instant, la suite de l'After intégrale Coupe du Monde sur RMC. Il est 22h58 à Paris, minuit 58 ici à Doha. L'équipe de France au programme. On va parler des infos du jour. Mbappé absent de l'entraînement. Que serait un mondial réussi pour les Bleus maintenant qu'ils sont en quart de finale face à l'Angleterre? Rappelez-nous 32-16. On en parle, on en débat dans l'After. À tout de suite.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, vous écoutez l'Afterfoot intégrale Coupe du Monde sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde 2022. Il est 23h02 à Paris, 1h02 du matin ici à Doha, au Qatar, en direct du studio RMC. Oui.
C'est bon, je peux parler du Maroc aussi ou c'est pas possible ce soir?
Non, c'est trop tard, mon cher Kevin. Il fallait t'imposer. Il fallait juste t'imposer, c'est tout. Ah bah, mais je t'assure qu'on va en reparler du Maroc. Hein. T'inquiète pas, on va en reparler. Tu t'imposes comme sur le terrain, Kevin. Hein.
Non, mais là,
comme tu l'as fait
non,
au Pays-Bas pendant 6-7 saisons.
Tu sais, un bon joueur, quand il voit qu'il y a trop de densité devant, il faut que ce soit lui qui couvre. C'est comme ça. C'est ça.
Ouais, sauf que le match a filé et t'as pas pu en placer une et faire une
passe. C'est pas grave, on a gagné. Qu'est-ce que je te dis? C'est le plus important.
Allez, messieurs, l'équipe de France. Je tiens quelques infos avant qu'on écoute Daniel sur l'équipe de France qui va nous développer un avis intitulé ainsi. La passion ne doit jamais vaincre la raison. Explication dans quelques secondes. D'abord, Mbappé, absent de l'entraînement collectif aujourd'hui, on nous dit auprès du staff technique, protocole classique à J+2. Rien compris à cette formule.
J+2
après un match ne s'entraîne pas. Voilà. Donc, on n'en sait pas plus. Il est resté en salle de récupération. Loin des regards, rien de grave selon nos informations. Voilà, messieurs. Si vous voulez réagir. Hein.
C'est pas une fatigue musculaire comme Karim Benzema au Real.
J'ai pas la réponse, cher Kevin. Zéro transparence sur le sujet. Bonjour. On a bossé. On a dit
peur.
Que tout va
la
bien
France a peur.
Non, la France n'a pas peur, a priori ça va. Côté anglais, présence incertaine de Raheem Sterling, vous l'avez suivi pour samedi. Il est rentré chez lui à Londres après un cambriolage de son domicile. Il veut s'assurer encore pour le moment que sa famille est bien en sécurité avant d'éventuellement revenir samedi pour affronter l'équipe de France. On n'est pas inquiet non plus pour les Anglais qui ont de quoi faire malgré l'absence de Raheem Sterling. Avis Daniel Riolo, la passion ne doit jamais vaincre la raison. Jingle Daniel.
Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça, et puis nous, si on avait fait ça, et si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé, eh ben, il aurait glissé son pied dessus.
Morgan je ne sais pas qui tu imitais. Tu imitais, je ne sais pas.
Non, je n'imitais pas.
Imitation générique, en fait.
C'était dans ma galerie de personnages.
Tu aurais pu doubler des films Pixar, peut-être.
Ouais, peut-être.
Une voix, peut-être. Des dessins animés.
On t'a jamais proposé de faire un personnage?
Non, tu vois. C'est...
Pourquoi tu veux? Il n'est pas comédien non plus.
Non, c'est vrai, je suis capable de faire comédie. C'est comme quand j'ai fait Verratti avec le carton aussi.
Il y a plein de gens qui ne sont pas comédiens qui doublent des Disney.
Ressortez-nous Verratti avec le carton, s'il vous plaît. On le sortira d'ici quelques secondes. Daniel, pourquoi la passion ne doit jamais vaincre la raison?
Écoute, tu dois forcément connaître ton ami, le chanteur communiste Jean Ferrat.
Il n'est pas que communiste, c'est un excellent chanteur et parolier aussi.
Il était totalement communiste, bien sûr, stalinisme de la première à la dernière heure.
Il n'est pas que ça.
Mais
incroyable ça quand même.
J'ai pas dit qu'il était que ça. J'ai dit
c'était un bon chanteur aussi.
J'ai dit c'était un bon chanteur avec une belle chanson.
Mais à quoi ça te sert de rajouter ça en réalité? Rien.
Et notamment cette chanson que je voulais mettre en avant, Aimer à perdre la raison. Tu t'en souviens de cette chanson. Tu devrais même la chanter, tu devrais enchaîner la directe.
Oui, bien sûr, bébé évidemment. On se quittera la suite.
Attention, parce que Daniel, c'est un chanteur. Il m'a envoyé quelques vocales depuis le Qatar. Oui,
on va se quitter avec Daniel comédien. Daniel chanteur, on va arrêter, quoi.
Hein? Non, franchement, je chante comme une casserole, laisse tomber. Oui, donc, ton ami chanteur communiste Jean Ferrat aimait à perdre la raison. Juste avant, tu sais, ces fameuses consultations qu'on fait auprès des supporters, bien, il y en a eu des comme ça avant la Coupe du Monde, et notamment une. Juste après le match contre l'Australie, où pourtant les Bleus avaient livré une belle prestation et avaient une belle correction infligée à l'Australie, 12% seulement des Français pensaient à ce moment-là que les Bleus pouvaient gagner la Coupe du Monde. Puis tu sais, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie ensemble des Français et ceux qui aiment le foot. Et dans ceux qui aiment le foot, on montait à 17. Petit pas en arrière, je me souviens de discussions autour de la mythique table de l'after, où ça flippait quand même pas mal avant la compétition. Il y a trop de blessés, les Bleus vont pas y arriver, ça sent la fin de cycle. Gilbert délirait sur le but de Kazri à la dernière minute pour la Tunisie. Il avait raison, Kazri a permis à la Tunisie de battre la France, mais ça n'a pas permis l'élimination de la France, en tout cas, comme le redoutaient certains. Et puis là, on arrive au moment des quarts de finale, et tout bascule. On est dans une quasi-certitude, en tout cas, alors peut-être que je vis dans un monde parallèle où je ne sais pas, mais tous les gens que je croise partout, la France, elle a gagné la Coupe du Monde. La traditionnelle, puisqu'on parlait des clichés culturels tout à l'heure, la traditionnelle arrogance française a repris le dessus. Avec Mbappé, on va gagner la Coupe du Monde. C'est fait, c'est entendu, c'est... Moi, je me méfie toujours, moi, de ces basculements d'émotions, parce que
mais comme ça, c'est chez le grand public ou chez les passionnés
de foot. C'est un petit peu tout le monde maintenant. Là, c'est un peu. Là, ça y est. Maintenant, même, c'est l'autoroute.
Même ceux qui connaissent le Brésil, l'Argentine, l'Angleterre, le Portugal, mais on l'a gagné déjà.
Bah, écoute, je sais pas. Tu demandes à Nico. Je suis sûr qu'il va te dire. Je vois pas qui va nous arrêter.
Je l'ai lu notamment sur les réseaux sociaux.
Alors c'est vrai que nous on est habitués toute l'année. Je le dis toujours, vraiment toujours. Je répète cette phrase très souvent. Il y a une grande différence entre les matchs qu'on regarde toute l'année, l'analyse qu'on veut mettre dedans, le feuilleton championnat ou le feuilleton Ligue des Champions avec les tactiques, les joueurs qui quotidiennement sont ensemble à jouer des matchs de façon hebdomadaire et la compétition internationale où l'émotion submerge tout. On l'a vu avec le Maroc, on en a parlé. Je me souviens évidemment du Portugal en 2016 et des polémiques innombrables parce qu'on pouvait pas dire que ça jouait pas bien. Parce qu'effectivement, ou même France 2018, qu'est-ce que c'était pas de dire que c'était chiant à regarder les Bleus. Parce qu'effectivement, tant que tu gagnes, c'est une espèce d'extase populaire générale qui fait que t'es tellement excité qu'à la limite, tu t'en fous. Et je dois bien dire que, bah oui, c'est vrai, après tout, on s'en fout, on est content. Et là, effectivement, l'émotion, je sens qu'elle est en train de gagner et qu'on n'analyse plus du tout et on n'a plus peur. Et je voulais juste dire, dans cet avis très simple, vraiment, qu'on reste quand même un petit peu les pieds sur terre parce qu'on n'a pas joué grand monde jusque-là. Certes, on a Mbappé qui fout les jetons à tout le monde, mais arrive l'Angleterre, qui est quand même une sacrée équipe. J'ai dit hier soir que Mbappé avait un edge sur tous ses adversaires parce qu'il faisait peur.
Sauf sur Kyle Walker.
Ben, je ne sais pas, justement. Ça, je ne le sais pas. Si toi, tu le sais.
On l'a vu quand même. City, le PSG, c'est. Alors, je pense qu'Mbappé peut bien sûr lui mettre la misère aussi, mais c'est un des joueurs qui arrive le mieux à le tenir.
L'edge est-il véritable ou exagéré? On le verra. On le verra samedi. Je pense la seule chose qui est vraie, c'est effectivement que les Français font peur. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'en méfient et c'est normal. Il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe et je pense que ça passe principalement par Mbappé. Puis le fait qu'il soit champion du monde et qu'il l'ait été sans qu'on les attende vraiment et en jouant d'une façon qui est d'ailleurs bien différente de celle d'aujourd'hui. Il y a juste ça. Ça, c'est vrai que c'est un petit avantage qu'on a. C'est cette espèce de doute, de trouille qu'on met un peu à tout le monde. Mais pour le reste, je pense qu'il faut vraiment rester calme parce qu'encore une fois, même contre la Pologne, c'est Mbappé qui allume la lumière, mais il y a eu un gros passage à vide dont on a très peu parlé, je trouve. Mais il y a eu pendant une demi-heure des Français.
L'occasion avant la mi-temps.
Pas bon. Avec en point, en exergue l'occasion des Polonais, là. Alors c'est toujours facile de dire qu'est-ce qui se passe s'ils marquent. Mais néanmoins, c'est une réalité. Ça peut être 1-0 pour la Pologne à ce moment-là. Donc voilà. pied sur terre, comme on dit, Nico Jamin.
Daniel, excuse-moi, t'as une petite tendance quand même à inventer des gens qu'on n'entend pas. Qui a dit ça? Que ce soit au 32-16 sur l'AMC ou ailleurs, on va gagner la Coupe du Monde. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des... Excuse-moi, laisse-moi finir. Que l'espoir n'est plus le même. On est passé du désespoir avant le mondial à un début d'espoir désormais, avant ce quart de finale. Là, franchement, les gars, vous allez un petit peu loin quand même. On n'est pas en train de délirer. L'équipe de France va être championne du monde.
Allume tes réseaux sociaux, tu vas avoir très vite. Non mais après moi je pense pas par contre que c'est chez les vrais fans de foot qui suivent le foot vraiment
Non mais Daniel, laisse parler Kevin. Mais c'est tellement mal poli.
Laisse parler. Eh oui. Cette belle chanson de ton chanteur préféré, Nico.
C'est franchement abominable parce qu'en fait, il y a mieux que ça que tendre un téléphone portable sur un micro. Il faut demander en régie à notre réalisateur de sortir le son. Ah bah non, déjà, 20 ans de radio pour faire ça, Daniel. Pour saccager l'antenne.
Bon, laisse-moi finir, Nico, laisse-moi finir. Non, je disais que oui, en effet, il y a peut-être une petite enflammade, mais j'espère que c'est. Décidément.
Kevin, vas-y, il a raison, tu peux continuer là-dessus.
Et donc décidément, je pense que c'est, j'espère en tout cas que c'est plus sur les gens qui suivent le foot occasionnellement ou un peu de loin, mais j'espère quand même que ceux qui suivent les matchs de très haut niveau savent qu'aujourd'hui, dans ces quarts de finale, surtout au vu du niveau du plateau, franchement, celui qui pense que l'équipe de France a de grandes chances ou est vraiment favori ou va gagner la Coupe du Monde, honnêtement, il connaît rien au foot, c'est pas possible. De dire que tu espères et que l'équipe de France a toutes ses chances, pourquoi pas, mais quand tu vois le Brésil, quand tu vois ce qui se passe autour de l'Argentine et de Messi, de sa dernière Coupe du Monde, quand t'as vu le Portugal ce soir, quand t'as vu ne serait-ce que des équipes comme l'Angleterre que tu vas rencontrer ne serait-ce que dans quelques jours, je pense quand même que c'est très difficile d'être sûr et certain, que voire impossible d'être sûr et certain que l'équipe de France ou quelque équipe que ce soit va gagner cette Coupe du Monde, à part le Brésil, parce que le Brésil joue quand même contre la Croatie qui est l'équipe qui sur le papier en tout cas a le moins de qualité ou a les joueurs les plus vieillissants, mais sinon je vois pas d'équipes qui seront vraiment largement devant, quoi.
Nico Jamin, une seule question se pose, est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un n'avoir que toi comme horizon?
Oui, je crois que j'ai dit il y a 24 heures, je crois. C'est dingue quand même, Daniel, de constater le nombre de chanteurs communistes à succès en France, de Renaud à Jean Ferrat, à Bernard Lavilliers,
Renaud
à Georges Brassens, ce grand libertaire, anarchiste.
Quand même, hein.
Comment ?
Renaud a terminé en soutenant François Fillon.
Mais la grande époque de Renault,
ça t'a échappé, ça.
Gynéco, ton ami aussi.
Son mouvement de l'extrême gauche à la droite classique.
Sinon, on peut finir l'after ou on reste sur Jean?
Il y a des choses qui échappent à Nico.
Faut pas nous réunir avec Daniel, les gars. Tu parlais à l'instant, Kevin, du duel à venir, Mbappé-Kai Walker. Je précise que Kai Walker, d'ailleurs, on va me dire que je suis un peu niais et mièvre. Il veut adopter un chat. Il a rencontré un chat ici, puisqu'on parlait d'horizon.
Mais il y a beaucoup de chats,
oui, il y a beaucoup de chats qui sont
genre qui traînent
nourris par les habitants de Doha, tu vois.
Mais tu sais que Jérôme Thomas également voulait en prendre un. Une fois on était dans un parc ensemble, il y en avait plein qui venaient autour de nous et il a dit mais c'est fou, tous les chats, ils voulaient en prendre un.
Ils sont sympas, les chats.
Ouais, très sympa, un peu relou au bout d'un moment quand tu es là.
Certains sont un peu agressifs,
je sais pas quoi ils tarnaient autour de nous, mais bon voilà.
C'est comme les rats à Paris.
Non, ne parle pas d'animaux.
Les rats sont des animaux comme les autres,
par pitié.
Stop, arrête de politiser s'il te plaît.
J'ai pas parlé de
ça. Rien dit.
Oui, bien sûr, je te vois venir. Kevin, le duel Kai Walker, Kylian Mbappé. Tu voulais en parler absolument parce que pour toi, ce sera une donnée déterminante de ce match.
Ah, pour moi, ce sera vraiment la donnée déterminante, sachant que Kylian Mbappé est tout simplement inarrêtable depuis le début de cette Coupe du Monde. Exceptionnel, fantastique, génial. Et c'est vrai que Kai Walker, c'est le seul joueur qui a réussi à tenir Kylian Mbappé dans des gros matchs avec Manchester City, parce que il faut savoir que Kyle Walker, c'est, je crois, un des trois joueurs les plus rapides de Premier League. C'est un joueur qui est très puissant, qui arrive à mettre son corps, qui arrive vraiment à tenir Kylian Mbappé sur la vitesse, sur la durée. Donc je pense vraiment que ce sera the duel pour ce match, parce que si l'Angleterre veut éliminer la France, il faudra bien sûr arriver à tenir un minimum Kylian Mbappé.
Daniel ?
Rien à
intenable. Mbappé, je rappelle que les Polonais avaient mis un système en place avec deux personnes sur lui en permanence, un troisième qui récupérait derrière. Est-ce que Mbappé est absolument intenable, injouable? Est-ce qu'il y a une façon?
Après, moi j'ai du mal avec l'idée que alors il y a des joueurs dans l'histoire qui effectivement peuvent être au-dessus et qu'on détache d'un collectif. Moi j'ai toujours préféré même, enfin, j'allais dire préférer le football collectif, oui, même si je suis sans arrêt en train de parler de Maradona qui faisait gagner une équipe à lui tout seul. Mais je crois pas qu'on y arrive sans un, parce qu'en fait, il faut, même quand on dit Maradona, il gagnait tout seul, en fait, c'était 10 plus 1. Ok, mais le reste était super bien organisé pour que lui s'exprime de cette façon. Est-ce que l'équipe de France, elle est construite exactement de cette façon? J'en suis pas convaincu. D'abord parce qu'elle est, elle est forte partout. Il y a des très bons joueurs à tous les postes. Et il y a un mec qui peut faire la différence. Est-ce que ça va se résumer à Mbappé ou Walker? Je crois pas. Parce que les Anglais ont également de très bons joueurs. Leur ligne offensive, elle est forte. Il faudra les surveiller aussi. Au milieu de terrain, ils sont très forts aussi. Oui, mais le duel que Mbappé va imposer à Walker, pendant qu'on va se poser la question de savoir si Walker peut résister à Mbappé et tout, bah, il faudra aussi que Koundé surveille James Foden.
Ah ben ça,
il faudra aussi que Saka oblige Hernandez. Phil, comment je l'ai appelé?
James
Foden.
Pour les Anglais, ça va.
Phil Foden, oui, pardon. Et je crois qu'hier, je l'ai appelé également comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bref, que Saka oblige Hernandez à défendre ce qu'il a peu fait jusque-là.
Ouais.
Donc, ils vont se retrouver, les Bleus, dans une configuration qu'ils n'ont pas encore connue depuis le début de la compétition.
Ils ont
un match.
Après.
Depuis combien de temps ils n'ont pas eu un match comme ça?
Très longtemps.
C'est ça.
Vraie question.
En phase de groupe, face à l'Allemagne l'an dernier. Enfin, il y a un an et demi. Mais c'était une phase de groupe.
À la Ligue des Nations, groupe, le match qui gagne avec le but de bah, c'est contre l'Espagne.
Ouais.
Le but de Benzema et tout. Donc, est-ce que c'est par le biais d'un exploit que tu vas gagner? Parce que collectivement supérieur à une équipe de ce niveau-là, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu.
C'est vrai.
Il y avait eu ce match au Portugal aussi.
Oui, mais là, les gars, on parle de Coupe du Monde, Kevin.
Oh, oui, dans le contexte 2021, non?
Non, c'était avant.
2020?
Peut-être même 2019.
Oh non, pas 2019 quand même.
Ah si, je crois.
Le temps passe tellement vite, ma bonne
et
dame.
Oui. Et oui.
Un mot, les gars, sur la conférence de presse d'Olivier Giroud aussi, hein, qui a déclaré aujourd'hui qu'il était soulagé désormais d'avoir battu le record de Thierry Henry, ou tout du moins de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Moi, j'aime bien. Il en parle spontanément. Certains diraient de manière très neutre. Oui, je suis content, c'est un honneur, mais c'était pas mon objectif. Lui parle d'émotion, de sentiment, un soulagement qui va lui permettre de se libérer peut-être encore un petit peu plus.
Oui. Ce qui est drôle avec ce record, c'est que, bon, on va pas lui dire, hein. C'est magnifique ce qu'il fait, c'est historique, c'est exceptionnel, tout ce qu'on veut. Mais
2020, Kevin.
Mais ouais, 2020. Bah, okay.
C'est ce que j'avais dit.
Mais qu'il a Mbappé, il va mettre combien de temps à battre le record d'Olivier Giroud? Pas très longtemps, je crois. Donc c'est pas comme si c'était un record.
D'ailleurs, Giroud l'a dit également aujourd'hui en conférence de presse. Il est pas naïf, hein. Il le sait.
Ouais, moi, ces histoires de records, franchement, aujourd'hui, le foot, qu'est-ce que c'est analysé par le biais des records?
Mais alors, non, mais ce qui est intéressant, c'est que les joueurs eux-mêmes en parlent livres, volontiers.
Ça fait bien, t'apprends les records. Il y a un seul record qui tient en équipe de France, en fait. Le seul qui tient, c'est 41 buts, 72 sélections. Le reste, vous le faites comme vous voulez, mais ça compte pas.
Et ça,
à côté,
c'est pour un numéro 10 encore.
Michel Platini.
41 buts, 72 sélections, je suis
pour
désolé.
Un numéro 10.
On fera jamais mieux que ça. C'est-à-dire dans une époque où il n'y avait pas autant de matchs.
Voilà.
Vous vous rendez compte que des mecs comme Manu Amoros qui est souvent là, les Giresse, les Platini, ils ont pas dépassé 80 sélections, ces gars-là, quoi.
Parce qu'à l'époque, Juste Fontaine, matchs, 21 matchs, 30 buts.
Aujourd'hui,
Juste Fontaine, 21 matchs,
120 sélections.
C'est pour ça que je suis d'accord avec Daniel. Pour le coup, les sélections,
41 buts, 72 sélections, c'est le record. Le
record de buts à partir du moment où tu as fait.
Et après, je kiffe un Giroud, je félicite pour ça, mais bon, voilà.
Non, mais c'est vrai que les records, ça veut rien dire à partir du moment où t'as pas un nombre de matchs, un minimum comparable.
Ouais.
Donc, bon, après, ça reste des chiffres sur un livre.
Allez, on revient dans un instant, messieurs, dans la suite de l'After Intégrale Coupe du Monde, l'avis de Kevin sur l'objectif demi-finale pour les Bleus. Une place en demi, même s'il y a élimination au bout, serait déjà un mondial réussi pour l'équipe de France. On va revenir aussi sur l'énième interview de Noël Le Graët aujourd'hui accordée à nos confrères du Figaro. Quelques déclarations encore une fois.
C'est les derniers tours de piste, hein, tu sais, c'est comme ça, c'est les compagnons de la chanson.
Sait-on jamais, Daniel, on verra.
Non, c'est
restez
bientôt.
Avec nous. Dans l'After intégral Coupe du Monde sur RMC, 23h19 à Paris, 1h19 du matin ici à Doha avec Daniel Riello et Kevin Diaz. Vous pouvez nous appeler au 32-16. À tout de suite.
RMC After Foot intégral Coupe du Monde.
Intégral Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
À
avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, l'intégrale, l'after intégrale Coupe du Monde sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde 2022. Il est 23h22 à Paris, 1h22 du matin ici à Doha au Qatar, en direct du studio RMC. On est là jusqu'au bout, bien sûr, tous les matchs commentés sur la radio officielle de ce mondial. Dans un instant, on va parler aussi de Samuel Eto'o, les gars, le coup de savate qu'il a mis à un blogueur algérien. Beaucoup de réactions en Algérie, au Cameroun, ici aussi à Doha. Ça fait énormément parler. A-t-il dépassé les limites? Votre avis dans un instant, Daniel et Kevin. Dans un instant également, on parlera de Lyon avec Edouard G. La vente, c'est pour demain, oui ou non? Ultimatum fixé par Jean-Michel Aulas. Logiquement, demain, John Textor doit faire valider le rachat du club. On en parlera avec Edouard G. en toute fin d'after. Encore un peu d'équipe de France, les gars. Tiens, juste un mot sur le tableau, les gars. C'est... les équipes attendues sont là, à part l'Allemagne, l'Espagne finalement. On est dans une forme de logique. Votre regard un peu sur ces affiches des quarts de finale, bien sûr.
Non, la surprise, c'est quand même l'Espagne éliminée.
Tu peux dire que
penalty.
Que l'Allemagne.
Non, mais le tableau. Bah, l'Allemagne est tombée au premier tour, mais je veux dire, par rapport au huitième, le plateau dont on parlait sur les derniers jours, où effectivement, semblait se dessiner le Pays-Bas, Argentine, le Brésil, Croatie, le France, Angleterre et l'Espagne, Portugal.
La seule incongruité, c'est le Maroc.
Exactement. Le Maroc a pris la place et a créé la seule surprise de ces huitièmes de finale. Pour le reste, effectivement, on est avec majorité de joueurs qui sont des habitués de la Ligue des Champions, des joueurs qu'on connaît. Il n'y a qu'au Maroc où tu as des joueurs d'Angers ou des joueurs, tu vois, qui sont a priori de seconde catégorie, même s'il y en a de Ligue des Champions, Hakimi, Ziyech. C'est pour ça que je dis que cette équipe, attention, elle a des beaux joueurs de foot, hein, quand même. Ah, elle a des beaux joueurs de foot. Mais c'est, on va dire que l'Espagne était favorite. Ouais. Voilà, donc c'est un peu la seule surprise. Pour le reste, on a du lourd, hein.
Ça va nous faire quand même de très très beaux quarts de finale.
Bien sûr.
Ah là, tu vas pas en rater un, hein, pas
le,
une minute.
Le week-end là, le week-end.
Le week-end, on est off.
Le week-end, c'est vendredi, samedi.
C'est ça.
Ouais.
C'est un peu comme au tennis, ça va devenir très intéressant maintenant au stade des quarts de finale.
Ah ben.
Dans un tournoi du Grand Chelem.
Il paraît que c'est maintenant que le monde commence.
Ouais. Noël Le Graët a parlé, la sienne a déjà commencé depuis un moment. Il est partout, vous savez qu'il loge également, il a la chance de ne pas de loger dans un hôtel FIFA en tant que proche de Gianni Infantino.
Ah, il est pas avec vous.
Non, il est pas au camp de base. On a peut-être croisé au 14e. Alors Noël Le Graët, interview au Figaro,
le fameux 14e,
a répété ce qu'il a dit chez Jérôme Roten dans Roten sans flamme en novembre dernier, ouais, juste avant le mondial. Il dit: mon souhait, c'est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux? C'est le président qui parle, pas l'ami. Deschamps aura la main s'il atteint les demi-finales en battant samedi l'Angleterre. Mon souhait, c'est qu'il reste. Qui voulez-vous trouver de mieux? Voilà, il le dit,
Zidane,
évidemment, qu'il n'a jamais appelé Zidane de sa vie pour le poste de sélectionneur. Justement, ça inspire aussi un avis à Kevin Diaz, qui estime que si Deschamps est en demi, son mondial sera réussi. Jingle Kevin Diaz.
C'est pas de ne pas haïr, c'est pas aimer à tel point que tu peux pas aimer quelqu'un d'autre.
Kevin, nous t'écoutons.
Ouais, alors attention, parce que moi je vais commencer par mon avis, par dire que considérer que l'équipe de France et Didier Deschamps réussissent leur mondial en allant en demi-finale, ça ne veut pas du tout dire que si j'étais à la place de Noël Le Graët, je prolongerais Didier Deschamps. Ceci étant dit, je pense quand même que au vu des blessés, au vu des absences et au vu du jeu qui a été proposé par l'équipe de France, et du fait que Didier Deschamps ait trouvé une formule qui semble correspondre, ou qui correspond clairement même au vu des forces en présence, je pense que pour l'instant Didier Deschamps réussit sa Coupe du Monde. Il y a quand même débat sur le poste de latéral droit, sur la liste, etc. Mais force est de constater qu'ils sont en quart de finale, comme les plus grosses nations. Et le juge de paix, ce sera sur 90 minutes, savoir s'ils vont réussir à se défaire de l'Angleterre, qui est un autre favori dans cette compétition, qui est le dernier finaliste de l'Euro, qui est dernier demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une équipe qui va être vraiment un costaud à affronter pour l'équipe de France. Et si Didier Deschamps et son équipe réussissent à passer cette montagne, je pense qu'on pourra dire que l'équipe de France aura fait une Coupe du Monde très correcte et que Didier Deschamps, je le répète, au vu des absences, au vu des blessures de dernière minute, aura quand même réussi une nouvelle fois. Et il faut lui rendre grâce pour ça, parce qu'on peut aimer ou pas son style de jeu, sa communication surtout, mais en tout cas, en termes de management et en termes de créer un groupe pour aller loin dans une compétition, à part l'Euro, il aura quand même à chaque fois réussi des compétitions vraiment très satisfaisantes.
Marouane est avec nous, 32-16. Salut Marouane.
Salut l'équipe After, comment allez-vous? Ça va les gars?
Bien, et toi? Supporter de l'équipe de France, bien sûr.
Exactement, supporter de l'équipe de France, grand supporter du PSG, donc j'ai voulu réagir un peu sur, bon déjà pour parler du sujet de Deschamps, ben écoute, s'il passe en quart et qu'il passe les quarts, allez en demi, on dirait, pour moi je dirais que c'est une Coupe du Monde réussie, après si on a la chance d'avoir Zizou, mais pour la magie du truc, pour recommencer un nouveau cycle, ben il n'y a pas à hésiter, ça c'est sûr que Zizou... Il doit être à la maison, quoi. Il doit tenir l'équipe, ça, c'est sûr.
Non, mais c'est pour ça, Marouane, que moi je disais, attention, cet avis, c'est pour rendre hommage au travail actuel de Didier Deschamps sur cette compétition. Mais je pense que, comme toute équipe, comme toute sélection, l'équipe de France a aussi besoin de renouveau. Et quand t'as un entraîneur disponible comme Zinedine Zidane, peu importe que tu sois champion du monde, que t'ailles en demi ou en quart, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait de tenter de faire une nouvelle aventure. Donc, moi, je comprends pas trop ce discours qui dit que si tu vas à tel niveau de compétition, alors tu seras prolongé ou pas. Pour moi, ça n'a rien à voir.
Cycle, de ce que tu veux faire.
Au bout de 10 ans, voilà.
Vous savez, la seule question qui a à se poser, c'est est-ce que Noël Le Graët est encore l'homme qui décide et qui va décider dans un futur proche? La seule question, elle est là.
Je rappelle qu'en janvier, on aura le résultat de l'audition, de l'audit, pardon.
N'oublions pas quand même que
la fédération
numéro 1 de la ministre, c'est de le sortir. N'oublions pas que lui essaye de s'en sortir en se délestant de Florence Ardouin, puisque le COMEX a demandé sa tête. Enfin, certains membres du COMEX ont demandé la tête d'Ardouin. Le Graët n'a jamais voulu la faire tomber jusque-là, mais peut-être va-t-il s'y résoudre. Je ne suis pas sûr que, quoi qu'il en soit, ce soit suffisant pour sauver la sienne. La logique des choses voudrait quand même que derrière cette Coupe du Monde, alors c'est vrai qu'une victoire en Coupe du Monde a toujours un impact qui justement fait perdre la raison, mais s'il n'y a pas de victoire en Coupe du Monde, la logique veut quand même que le duo et les deux Bartwix dégagent, et que je pense, à mon sens, ce serait bon pour le football français. Il faut passer à autre chose. Il faut et que Noël Le Graët s'en aille, et que Didier Deschamps, qui a fait très bien pour les Bleus, s'en aille aussi, qu'on tourne une page, qu'on aille à autre chose. Nouveau président, nouveau directeur, parce qu'Ardouin, il faut qu'elle s'en aille également très vite. Grand ménage, grand coup de balai à la Fédé. Nouveau sélectionneur, Zidane, il faudrait que ce soit lui. Et voilà, il a attendu, il a tout refusé pour ça.
Exactement.
Avec le risque, quand même, il le savait que Deschamps veuille continuer, et que si on demande à Deschamps, lui, il s'accrochera au poste. Surtout, il ne le lâchera jamais à Zidane, le poste. Ça, c'est clair et net.
Ah bon?
Et l'équipe, si je peux me permettre aussi. Lui. Même pour Deschamps.
Pourquoi? Attends, excuse-moi, Marouane. Daniel, finis juste ce que tu viens de dire, quand même, parce qu'on le dit souvent dans l'after, on ne va jamais trop au bout de ça. Pourquoi il ne lâchera pas à Zidane?
Parce qu'il lâchera pas à lui, parce qu'il sait que Zidane est plus aimé que lui, et que Deschamps, il y a chez lui une blessure narcissique depuis toujours, d'être moins aimé que d'autres gens de 98. Et puis, parce que point et phrase, si tu me trouves quelqu'un de 98 qui défend Deschamps, sur les 23 qu'ils étaient à l'époque, si t'arrives à 5, c'est le bout du monde.
Oui, voilà, c'est ça.
Si t'arrives à 5, c'est le bout du monde.
Oui, voilà. Il y en a certains quand même.
Bon, bah c'est Marouane, beaucoup déjà. Ça veut dire certaines choses, ce genre de choses-là.
Excuse-moi, Daniel, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que Deschamps, vaut mieux qu'il parte par la plus belle des portes et il ne faut pas qu'il fasse la compétition.
Mais la porte, elle est déjà là, Marouane. Tu sais, la porte, déjà, elle est belle. La porte, elle est belle. Il a été champion du monde. La porte, il y a déjà des fleurs autour.
Complètement.
Bah, oui.
Je pense que voilà, il faut remettre un peu de magie pour notre sélection. Et pour en revenir sur le sujet précédent, je pense qu'il va falloir qu'on souffle un bon coup. On avait l'une des poules les plus faibles de la Coupe du Monde. Là, on va se prendre l'Angleterre, et pour être supporter du PSG et avoir vu la dernière confrontation Walker-Mbappé, va falloir qu'on souffle un bon coup, qu'on repose un peu la tête sur les épaules et qu'on arrête de bien monter sur nos grands chevaux aussi, parce que la compétition, on en a encore de belles devant nous. Il y a les Portos qui nous ont montré ce qu'ils nous ont montré.
Les Portugais, s'il te plaît.
Les Portugais, excuse-moi. Ouais, ouais. Excuse-moi. il y a les Argentins, pareil, avec la
magie. Ça te fait rire, ça. Hein, ça te fait rire, ça.
Oui, je rigole de tout.
Désolé, je me suis emporté. Et il y a aussi les Brésiliens avec la magie de la Seleção. Donc, faut souffler un bon coup. C'est vrai que pour l'instant, elle est belle, mais on a beaucoup d'obstacles devant nous encore.
Ça commence vraiment samedi à 20h.
Exactement.
Merci Marouane. Non, fait 32-16. Excellente soirée à toi. À très vite dans l'after, les gars. Alors ça. Samuel Eto'o, Daniel et Kevin, donc je rappelle les faits. Hier soir, après la victoire du Brésil contre la Corée du Sud, à laquelle il a assisté en tant qu'ambassadeur du Mondial, il signe des autographes aux spectateurs qu'il croise. Il est interpellé par un blogueur ou un youtubeur algérien. On ne sait pas précisément ce qu'il lui dit. Il devrait être question du barrage Cameroun-Algérie, dont certains estiment que l'arbitre Gassama a été acheté par Eto'o ou la Fédération Camerounaise. Ça déclenche la colère de Samuel Eto'o qui lui assène un coup de pied violent au visage, a priori. Eto'o a publié aujourd'hui un communiqué ce soir. Il dit regretter d'avoir perdu son sang-froid. Il présente ses excuses au public pour cet incident regrettable, pas aux youtubeurs en revanche. Il demande également aux autorités algériennes et à la fédération sœur d'Algérie, comme il dit, de prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à ce climat délétère, redoutant qu'un drame plus grave ne se produise. Je rappelle que youtubeur lui est allé porter plainte à un poste de police ici à Doha au Qatar, et que la FIFA aurait interdit désormais de s'approcher à ce blogueur des stades de la Coupe du Monde. Est-ce que ça vous a choqué? Qu'est-ce qui vous a choqué? Est-ce que vous estimez, un peu comme moi quand même, que Samuel Eto'o, en tant que président d'une fédération nationale, en tant qu'ambassadeur de la FIFA, pète les plombs? On dirait quoi, c'est les gars? C'était Noël Le Graët ou un autre président de Fédé qui assénait à un coup violent à un simple gamin qui veut effectivement attirer l'attention,
Nico,
cumuler les clics. Et
non, mais le problème, c'est pas. On n'est pas en train de parler d'un président qui est face à un blogueur. On est en train de parler d'un problème qui commence et qui a pris des proportions complètement démesurées depuis des mois et des mois maintenant. Là, pour le coup, on n'est vraiment plus du tout dans la raison depuis de nombreux mois. On n'est pas à faire une comparaison si c'était un tel ou un tel qui faisait ça. Là, on est à deux doigts de l'incident diplomatique permanent entre ces deux pays. Très franchement, on ne peut pas sortir du contexte ce qu'a fait Samuel Eto'o. Je veux dire, rappelle-toi ce qui s'est passé après ce match-là, la réaction démesurée de Jamel Belmadi, qui était venu d'ailleurs dans l'émission de Jérôme Rotten, s'excuser lui aussi d'être allé trop loin, ou limite il avait sous-entendu qu'il fallait choper l'arbitre et lui faire passer un sale quart d'heure. Je rappelle quand même qu'après un Algérie-Cameroun, en février 2022, il y a un quotidien algérien qui a quand même titré « Le Cameroun retourne dans la jungle sans pois chiche ni haricots ». Qui s'était permis de faire une blague un peu osée sur Albert Ebos, le attaquant camerounais qui était mort dans un match. C'est le fameux match US Kabylie, USM Alger, là, il a pris un truc sur la tête, oui. Et tout. Bon, je crois que tout le monde est en train de perdre la tête dans cette histoire-là. Côté algérien, on a du mal, on est persuadé qu'il y a eu des choses louches dans ce match-là. Personne n'est capable de dire quoi que ce soit là-dessus. C'est que des supputations, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un match de foot. C'est pas la première fois qu'il y a que dans un match, on croit que l'équipe qui a perdu croit qu'il y a eu quelque chose de louche en face. Comme a dit Eto'o, il y a eu des recours. Rien n'a pu être démontré, rien n'a pu être prouvé. Et puis de toute façon, je vois pas ce qu'il y avait à prouver. On met beaucoup trop de choses dans ce match-là et dans ce qui s'est passé. Et là, Eto'o, il arrive au bout de la chaîne de ce truc-là avec ce mec-là qui le harcèle sans arrêt. Qui franchement est méga casse-couille, quoi.
Et il le sait, Eto'o, Daniel. Il est habitué,
Nico,
à ça.
Nico, ne sort
c'est 20
pas
ans qu'il vit avec ça.
Tu ne peux pas sortir un acte d'un contexte, même si le passage à l'acte violent, moi je le condamne, quoi qu'il en soit. Il y a toujours une différence entre la réaction, l'énervement que tu peux avoir et le passage à l'acte. Le passage à l'acte, le geste violent, c'est quelque chose de particulier. C'est pour ça que devant la justice, t'es toujours plus condamné en cas de passage à l'acte que simplement si t'insultes ou si t'es voilà. Donc là, évidemment, et d'ailleurs, lui-même s'est excusé. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut des deux côtés, et surtout du côté algérien, parce qu'il n'arrive pas à le digérer, il faut sortir de ce truc-là. C'est pas possible. Comme dit Eto'o dans son communiqué, qu'est-ce qui va se passer? Ça va mal tourner. C'est pas possible, ce que je t'ai lu, Nico, tu peux pas ne pas être outré par ce que j'ai lu de la presse algérienne. Le Cameroun retombe dans la jungle sans pois chiches ni haricots.
Oui, alors tous les Algériens, effectivement, et ce blogueur peut-être n'est pas responsable.
Mais non,
c'est une des médias algériens. J'ai passé des coups de fil à des confrères algériens qui nous disent effectivement.
Comment t'as fait pour acheter?
En Algérie, on n'est pas dupes. On déplore une forme de populisme de Jamel Belmadi après l'élimination. En barrage aussi.
On l'a déploré.
On est dans l'incompréhension d'une réaction.
Mais Eto'o, il s'est excusé. Donc on peut très bien.
peut quand même dire que c'est pas la.
Mais on dit que c'est pas bien. Bien sûr que c'est pas bien.
Kevin, tu conclus.
Même en tant que. Bien sûr que les provocations, c'est déplorable aussi. Mais le geste de Samuel Eto'o, qui est quand même quelqu'un qui est représentatif pour la jeunesse, etc., bien sûr que c'est inacceptable. Et je pense qu'il est le premier à le savoir et qu'il doit le regretter. Mais voilà, quand tu vois quand même ce geste d'une violence quand même rare, en plus pour un président de fédération qui représente son football, non, c'était pas à faire.
Non, mais il faut vraiment parler de tout le monde. Il faut que tout le monde se calme sur cette histoire. Dans cette histoire,
oui, ça on est tous d'accord. Dans un instant, l'Olympique Lyonnais avec Edouard G. Est-ce que le club sera enfin vendu à John Textor auprès de Jean-Michel Aulas? On en parle. Edouard G est avec nous dans quelques secondes dans l'After Intégral Coupe du Monde sur RMC. À tout de suite.
RMC After Foot Intégral Coupe du Monde. Intégral Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo, nous parlons désormais de l'Olympique Lyonnais dans l'After Intégral Coupe du Monde sur RMC. 23h40 à Paris, 1h40 du matin à Doha, Lyon. Donc j'accueille bien sûr Edouard G. Salut Edouard.
Salut Nicolas, salut Kevin, salut Daniel et bonjour à tous. Edouard.
Bonsoir à tous.
Et Daniel, à tes côtés, en studio, François Bessène, notamment contributeur de la revue de l'After. Présente-nous ton invité ce soir.
Ah bah c'est pas que mon invité à moi.
Ça nous tous bien sûr.
François, présente-toi.
Alors déjà auditeur de l'After, contributeur parfois pour la revue. Moi, je suis consultant en stratégie et assez souvent sur des sujets de vente et de rachat d'entreprises. Ce qui m'a amené à regarder de plus près le sujet de l'Olympique Lyonnais parce que c'est une boîte cotée, donc avec beaucoup d'informations publiques qui d'ailleurs sont accessibles à tous les auditeurs s'ils veulent vérifier ce qu'on va pouvoir raconter.
Et dans les premiers contacts qu'on a eu ensemble, ce que tu tenais à me préciser, c'est que l'idée globale qui était énoncée partout dans tous les médias, c'était que John Textor rachetait l'OL. Or, c'est complètement faux.
Alors d'abord, François, je te donne la parole dans un instant. Les informations d'Edouard G qui travaille sur le dossier heure après heure depuis de nombreux mois. La situation est toujours aussi confuse. Edouard, je rappelle, énième ultimatum fixé par Jean-Michel Aulas à demain. Où en est-on aujourd'hui concrètement, Edouard?
Eh bien, on en est au, ce que j'ai compté, le 22e épisode, hein, la 22e étape dans ce rachat, donc lancé au mois de mars. On rappelle, parce que c'est important d'avoir ça en tête, il y a au final que 40% de l'OL en vente, hein. Les deux fois 20% d'un côté de Pathé, du groupe Pathé qui est à l'OL depuis 1999, et le groupe IDG, c'est un groupe chinois qui est à l'OL depuis août 2016. Donc ce sont ces deux acteurs de l'OL, du capital de l'OL, qui ont décidé en mars dernier de vendre. Ils ont mandaté une banque américaine, la banque Rhein, qui donc a choisi au final de présenter John Textor à Jean-Michel Aulas, qui a donc lui préféré plutôt Foster Gillette. En dehors du choix de la banque Rhein, finalement, c'est donc John Textor. Et ça, c'est vraiment important à avoir en tête pour avoir les prochains épisodes. Alors, à l'instant T, ce que l'on me dit, moi, encore hier soir, tout peut changer encore, bien évidemment, dans les heures à venir. Mais la fumée devrait plutôt être blanche que noir, donc c'est-à-dire qu'il y aurait plutôt un achat de John Textor donc de l'OL. Le communiqué de presse devrait arriver demain soir, avec le décalage horaire avec les États-Unis, peut-être dans la nuit de mercredi à jeudi. En tout cas, si la fumée est noire, donc si la vente ne se fait pas, il va y avoir des actions en justice des vendeurs envers notamment la banque Rhein, qui a choisi John Textor. Il y a donc cette position de la banque Rhein qui va être à regarder. Et donc, je le dis bien, il y a que 40% des parts en vente. Ça veut dire que potentiellement, derrière, il peut y avoir, pourquoi pas aussi, à la place, si ça ne se fait pas, quelqu'un qui apporte de l'argent pour une augmentation de capital pour compenser l'éventuel départ de ces 40%. Voilà où l'on en est ce soir. La fumée devrait plutôt être blanche que noire dans ce dossier qui est très très compliqué, notamment parce que le dernier détail, c'est cette fameuse lettre que doit envoyer la Première Ligue avec l'accord de Crystal Palace, parce que John Textor posséderait à la fois des parts dans le club de Crystal Palace et dans le club de l'OL, et pour au niveau de la Première Ligue, il faut un accord, et c'est là que le bât blesse. Pour le moment, il faut que...
Mais on en parle depuis longtemps, Edouard, de ça, de la fameuse autorisation de la Première Ligue.
Ligue pour le transfert.
Oui, alors qui au départ, au mois d'octobre, était simplement une lettre. Et là, maintenant, c'est une lettre avec des conditions avec beaucoup de millions, visiblement. Et c'est ça qui complique, on le dit depuis le 17 novembre, depuis le 21 octobre, cette vente. C'est juste ce détail. Tout le reste est là. L'argent est bloqué sur un compte. Les accords sont faits entre les différents actionnaires.
Daniel.
Donc, je disais, François, pourquoi selon toi de dire que Textor rachète le club, c'est faux?
Alors déjà, si on lit les documents financiers du groupe L, il y a bien plus que 40% qui sont en vente, parce que Jean-Michel Aulas vend 50% de ses offres.
Oui, je disais 40%, c'est au départ. Hein.
D'accord,
Je replaçais dans le contexte. Derrière, bien évidemment, il faut être précis. Si c'est 40%, c'est ce qui est en vente au départ. Et derrière, la proposition de John Textor ou de Foster Gillette ou d'autres à l'époque, c'était de tout racheter. Du coup, aussi les parts de Jean-Michel Aulas et toutes les parts qui sont dans le public, hein, parce que derrière il y a une OPA qui serait lancée, parce qu'on rappelle que l'OL, et tu l'as dit, est en bourse.
Ok, avançons. Allez.
Donc, pour regarder, pourquoi est-ce que dire que c'est John Textor qui achète, il faut faire très attention. Déjà, John Textor n'achète pas avec son argent. C'est classique dans le cas de ce qu'on appelle une LBO. C'est un rachat avec effet de levier. En fait, il va chercher de la dette. Donc, en fait, lui, il va juste mettre de sa poche 5 millions d'euros. Sachant que le capital estimé est à peu près à 500 millions, on se rend compte qu'il va emprunter la quasi-totalité sur les marchés. Aujourd'hui, l'investisseur majoritaire...
Même le mec à Bordeaux aurait détenu plus finalement, même Dagrossa.
Joe Dagrossa. Plus, tout à fait, avait mis plus, il avait mis 2,5 millions sur un rachat à 100 millions. Donc on voit que le rapport d'equity par rapport à la dette est encore plus faible dans le cas de ce rachat. Qui est l'investisseur qui met le plus d'argent dans le financement? C'est un fonds d'investissement qui s'appelle Ares Management, un des plus gros fonds au monde, hein, extrêmement connu, qui apporte le financement. Il n'est pas clair encore aujourd'hui, est-ce qu'ils vont prendre une part de ce qu'on appelle l'equity, donc le capital social de l'entreprise? Normalement, ils n'en prennent pas de l'Olympique Lyonnais. Peut-être en prennent-ils de Eagle. Eagle, en fait, c'est la holding qui a été créée en 2022. C'est très important de dire 2022 par rapport à Crystal Palace, parce que Crystal Palace ne fait pas partie de ce véhicule financier uniquement pour se financer sur les marchés. Donc, John Textor, il rachète en effet, mais c'est pas son argent. Et ça va amener beaucoup de choses, parce qu'il va falloir le rembourser.
C'est toujours un objet d'inquiétude. Ça se fait, je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour l'OL. Est-ce que c'est ton avis également?
Il y a un enjeu de remboursement de la dette. Quand vous allez acheter votre appartement, vous achetez auprès d'une banque, entre guillemets, conventionnelle. Vous pouvez acheter sur 20 ans, 25 ans, même 30 ans. Là, John Textor, avec sa structure Eagle, va se financer auprès d'Ares. Ares étant un fonds d'investissement, faut comprendre ce qu'est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, ça peut être vous et moi qui donnons notre argent. Ça peut être, par exemple, les retraites, les caisses de retraite au Canada, aux États-Unis, qui prêtent de l'argent pour obtenir un rendement. C'est-à-dire que Ares, en donnant le financement, va attendre un taux d'intérêt élevé, parce que sinon ils peuvent aller se financer auprès de banques conventionnelles, et dans un délai assez court. C'est risqué, au sens où il va falloir rembourser sans doute rapidement des sommes importantes dans un milieu au contexte compliqué, et d'ailleurs le foot, qui par nature ne dégage rarement des bénéfices. L'Olympique Lyonnais...
C'est la merde dans laquelle s'était retrouvé Bordeaux, ça. Hein.
Bien entendu. Alors l'Olympique Lyonnais a un avantage, il faut féliciter Jean-Michel Aulas pour tout ce travail, ce sont tous les actifs immobiliers.
Ça, c'est vrai.
Qui sont valorisés, bien entendu, dans la vente et qui, entre guillemets, rassurent les prêteurs. Maintenant, il y a un double enjeu. John Textor, il a peut-être vu grand. En rachetant au mois de mars, faut pas oublier qu'on a eu l'invasion de l'Ukraine, donc là également la remontée des taux d'intérêt, ce qui fait que quand on achète une entreprise, et tous les auditeurs s'en rendent bien compte, quand au quotidien ils essayent d'avoir un crédit immobilier, les taux d'intérêt n'ont rien à voir. Ils sont bien plus importants. Récemment, et on voit que c'est un problème parce que le closing n'est toujours pas fait, l'euro est en train de remonter par rapport au dollar. La transaction, elle se fait en euros. Le portefeuille de dettes, enfin les financeurs le financent en dollars. Donc le coût de la transaction est plus élevé actuellement pour John Textor. Donc c'est un...
D'où les coûts de frein multiples.
Exactement. Et en fait, les prêteurs veulent des garanties. La garantie qui est attendue, Alors, il y a évidemment le stade, il y a tous les actifs immobiliers, et qui est un travail remarquable. D'ailleurs, il faut encore une fois insister dessus.
Moi, je m'inquiète, je me demande même, Lyon peut prendre un virage dangereux dans cette histoire-là, mais bon.
Mais ce qui est dingue, Daniel, excuse-moi François, c'est que ça veut dire que Jean-Michel Aulas est prêt à coûte que coûte à lâcher son club.
Mais tu sais quelle opération financière il y a derrière,
qui n'est pas forcément viable. Mais c'est justement ça qui nous intéresse. Pourquoi Aulas, Jean-Michel Aulas, veut absolument vendre Lyon sans assurance très claire, très fiable, très viable pour l'avenir de son club de cœur, hein, celui qu'il a construit, qu'il a fait grandir?
Bah, je vais donner juste les montants de la transaction, les raisons qui sont derrière. Évidemment, moi, je ne les connais pas, mais je vais juste donner des chiffres qui sont publics, qui sont dans les rapports de OL Group. La vente des parts de Pathé va rapporter donc au groupe Pathé à peu près 150 millions d'euros. IDG, l'investisseur chinois, on est plus proche de 90 millions. Si on parle de Allnest, qui en fait est la holding financière de Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas va toucher environ 92 millions d'euros sur la vente telle qu'elle est définie aujourd'hui et va garder à terme 8,5% du capital. Il y a des gens
là,
dont
tu parles de sa holding, hein, François.
Exactement, la holding Allnest, qui est une holding familiale. Il y a des gens dont on parle très peu ces derniers temps dans le rachat de l'OL, ce sont les petits porteurs.
Ah, bah oui, ils sont enflés de A à Z.
Aujourd'hui, ce qu'on appelle le flottant d'une entreprise qui donc est en bourse représente 30% du capital social de l'Olympique lyonnais. Les actions, lorsqu'elles ont été émises en 2007, si je dis pas de bêtises, l'introduction a été faite à 24 euros. Alors, ça a baissé, en fait, assez rapidement. Aujourd'hui, le cours de l'action, qui d'ailleurs a été réouvert aujourd'hui, alors qu'il avait été bloqué dans le cadre du closing, ce qui, moi, m'amène à penser que potentiellement, ça se fera pas demain. Je dis pas que ça ne se fera pas. Mais le cours ayant été réouvert aujourd'hui, et d'ailleurs, il a perdu 14%, on peut se dire que le closing ne se fera peut-être pas demain. Mais les petits porteurs, on est à moins de...
Combien elle vaut son action, petit porteur?
On est à 2,40 €.
Waouh.
Ouais. Donc c'est-à-dire
mais c'est engagé à les reprendre à 3 euros.
Et alors tout à fait, John Textor s'est engagé à les reprendre à 3 euros.
Quand certains en ont acheté pour 20 euros, hein, mon cher François.
Voilà, exactement.
En 2007.
En 2007 et ensuite un peu en dessous ou autre. Il n'y a pas si longtemps.
Des salariés du club, hein, en plus, hein, des salariés du club.
Il y a des salariés, il y a des petits porteurs comme tout le monde. L'action était disponible sur les marchés et tout le monde pouvait, même des supporters, pouvait acquérir une action OL Group.
Donc, et même les salariés du club qui regrettent d'avoir été poussés à acheter ce genre d'action, François.
Ah bah potentiellement. Mais après, ce sont également les risques lorsqu'il y a ce qu'on appelle une IPO et que les salariés prennent des actions. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entreprises aussi.
Qu'est-ce qu'on peut envisager si ça ne se fait pas? Si finalement ces gens-là disent on ne prend pas. Comment on continue? On continue comme on est là?
Alors si ça ne se fait pas, l'Olympique Lyonnais a... Évidemment, de par ses actifs immobiliers, c'est quand même une boîte très particulière dans le monde du football, peut attirer d'autres investisseurs.
Pour 40% du capital, on rappelle.
Exactement. 40 ou plus, selon ensuite les négociations qui auront lieu. Il peut y avoir d'autres investisseurs. On peut rester tel qu'on est.
Avec l'augmentation de capital.
Voilà, il y a l'augmentation de capital qui était annoncée à peu près de 80 millions. Ça peut être sans vendre. On fait une augmentation de capital avec de l'argent frais d'autres investisseurs. Ce qui fait qu'en fait, on dilue le pourcentage de l'entreprise OL Group qui est détenue par les différents investisseurs, quitte à refaire un autre process de vente plus tard.
Est-ce que c'est faux de dire qu'au final, à ce moment-là de sa vie, il n'est plus en très grande forme, Jean-Michel Aulas. C'est une opération financière incroyable. C'est le moment de se retirer pour lui. Et que finalement, lui, à la maison ce soir, il a envie que ça se fasse quand même. Il a envie de partir, de réaliser cette opération financière et de passer à autre chose. Et en gros, advienne que pourra derrière.
Je pense qu'on ne peut pas oublier 30 ans d'histoire entrepreneuriale. C'est d'abord un chef d'entreprise qui a eu des très grands succès. Pas que à l'Olympique Lyonnais, qui a construit une entité, une marque. Enfin, il y a quand même un stade qui est propriété du club. Maintenant, à un moment, c'est normal pour tout chef d'entreprise de réfléchir à la sortie. Et les fonds d'investissement sont très souvent là pour faire vivre ces entreprises lorsque les gérants et créateurs se retirent et, entre guillemets, ne laissent pas le bien, par exemple, aux enfants. Et ça arrive pour énormément de chefs d'entreprise. C'est la réalité de l'économie au quotidien. C'est financièrement une très belle sortie. Je pense que Jean-Michel Aulas est persuadé que pour son club, c'est sans doute la meilleure chose à faire parce que c'est
lui,
un projet
qui, par la base, est
ambitieux.
Lui, il est convaincu que c'est une bonne nouvelle de vendre à ces gens-là. Moi, j'ai un doute là-dessus.
Moi, je ne connais pas.
On peut demander à Edouard, notamment, ça.
Edouard, ton avis là-dessus. Moi, je me demande vraiment, il veut vendre, mais est-ce qu'il s'est soucié de savoir ce que les gens allaient faire du club?
Bah, je pense que si
moi, je suis inquiet de ça.
Si ça prend du temps, s'il demande des garanties, il y a eu tous ces ultimatums de demi, notamment le 24 octobre, quand il met John Textor au pied du mur en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que à l'instant T, c'était juste des accords oraux, hein. Et donc il l'a mis au pied du mur, et le 25 octobre, comme par hasard, parce que John Textor, c'est quelqu'un qui est fils de un héritier qui découvre un petit peu ce que c'est que l'administration française, les transactions internationales. Donc
les gars, ils ont fait une conférence de presse, ils ont convoqué tout le monde, ils ont fait ses vendus, Textor a parlé, a fait ses petites vannes classiques. Honnêtement,
oui, mais parce qu'à ce moment-là, Daniel,
il y a un côté ridicule dans l'histoire qui est...
Non, oui, mais qui est ridicule là-dedans? C'est peut-être, est-ce que c'est pas la banque Rein qui a présenté ce profil-là?
L'OL aussi, on l'associe, il est ridicule.
Mais non, mais il faut replacer,
il faut qui il traite.
Il faut se replacer au 20 juin, au mois de juin, quand tout se fait. Et quand vous avez la banque Rein qui vient de faire le deal de Chelsea, qui est en portefeuille là, la vente de Manchester United, qui vous dit voilà, l'homme idéal c'est X, eh ben il a totalement confiance.
Ouais.
Là, il y a un problème aussi de la banque qui fait l'intermédiaire.
C'est le monde de club où les banques sont arrivées, on dit ça, et puis derrière, c'était flippant. À Bordeaux aussi, il y a certainement quelqu'un à un moment qui a dit.
Et derrière, il y a eu ces différents ultimatums, et derrière, eh bien, les accords sont passés de l'oral à l'écrit au mois d'octobre, et les fonds sont arrivés tout début novembre. Donc, il a fallu forcer. Et si Jean-Michel Aulas ne se souciait pas de tout ça, je pense qu'il l'aurait vendu à un moment donné avec uniquement des accords oraux, et puis laisser le bateau vogué. Là, il attend quand même un certain nombre de certitudes, en sachant que c'est vraiment le dernier ultimatum.
Que ça ne se fasse pas.
Ils sont globalement très inquiets, en tout cas. On attend la fumée blanche ou la fumée noire dans les prochaines heures. Merci, Edouard.
Allez, à la prochaine.
Excellente soirée à toi. Merci à François Bessène également. Merci à Kevin. Merci à Daniel. Fin de l'after intégral Coupe du Monde sur RMC dans un instant.
Allez, Nico,
c'est votre habitude désormais. Absolument pas. C'est parti pour la libre antenne sur RMC avec le duo de vos nuits, du début de vos nuits. Thibaut Jean-Grande et Nicolas Villas. Dans quelques secondes sur RMC, merci également à Antoine Vernier et Philippe Michon. Bye bye.